blogueuse, game blogueur, bonjour.
Bonjour.
J'ai parlé au game blogueuse, game blogueur. J'ai pas parlé à toi.
Bah, je suis un game blogueur aussi. Hein.
C'est vrai, tu veux qu'on la refasse, c'est ça?
Non.
Bon, on va pas la refaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Vous l'aurez compris, avec moi, il y a Julo.
Salut, ça va?
Qui n'arrive pas à tenir sa langue. Il y a Traz aussi.
Salut.
Et il y a Romain.
Salut.
Et cette semaine, comme la semaine dernière, grosse actu qu'on va traiter tous ensemble.
Tous ensemble.
Les trois thèmes. Ça, on y viendra tout à l'heure. Mon cher Julo, sera le troisième thème. Premier thème, ce sera évidemment Destiny 2. Vous l'avez découvert il y a quelques heures maintenant, si vous êtes premium, quelques jours si vous ne l'êtes pas. Destiny 2 a été montré officiellement. Camille a même fait des petites impressions. Il est allé à Los Angeles exprès pour y jouer. Et nous, on va vous en parler tout à l'heure. Ensuite, on va parler eh bien, de Arms, que j'ai eu l'occasion d'aller voir moi à Francfort. Bon, c'est un peu moins glamour que Los Angeles. Hein,
mais t'as mangé des bonnes saucisses.
Bah non, j'ai vu. Mais j'ai pas bouffé de saucisses, j'ai pas croisé de grande blonde. Je suis ultra déçu par l'Allemagne sur
pas,
ce coup.
Pas déçu.
Et en dernier point, nous évoquerons évidemment Farpoint, savoir si c'est bien le meilleur jeu PlayStation VR sorti jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est la meilleure expérience, la meilleure grosse expérience PlayStation VR? Julo répondra à la question à
une grosse expérience.
So Farpoint.
Oh là là, c'est trop de jeux de mots pour moi d'un seul coup avec, avec
bon.
Traz.
Bon,
évidemment, après nous parlerons un peu des autres tests et de l'actu en vrac. Mais pour commencer, comme chaque semaine, eh bien, win et fail. Et le win, il est pour qui, mon cher Traz?
Bah, il est pour Wild West Online.
Qu'est-ce donc?
Bah, tu sais, c'est un jeu dont on s'était dit à l'origine que c'était un leak de Red Dead Redemption 2.
Ah oui, la fameuse image,
la fameuse photo
dont on a parlé dans le podcast de la semaine dernière où on se disait est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Moi j'avais voté non.
Moi j'avais aussi, pareil, j'avais dit
genre regardez
j'avais
le podcast,
dit, un leak, j'avais dit un leak de Rockstar,
non,
ça
non,
m'étonnerait
non.
beaucoup.
Le seul qui était vraiment sceptique c'était moi, moi j'y croyais pas. Moi je l'ai dit.
Moi je demande
un replay. On s'en fout,
allez, il y aura un replay. Écoutez chez vous si savoir qui avait raison.
C'était pas qui aura la médaille entre Julo et
exactement. Alors pourquoi Wild West Online serait un win?
Je sais pas, à ton avis pourquoi?
Je sais pas, parce qu'ils ont réussi à créer un peu de buzz autour du jeu.
Ils ont fait un méga buzz de l'enfer, tout le monde a adhéré au truc en disant putain mais c'est trop bien ce truc là en fait, même si c'est pas Red Dead 2, bah...
Un buzz
on achète
qui leur a coûté exactement zéro thune.
Ouais.
Ils ont
parce qu'à l'origine ils voulaient faire un Kickstarter.
Exactement.
Justement pour financer le projet, donc c'est un MMO western machin. Et finalement ils en ont pas eu besoin, puisque un des financiers du projet à l'origine a dit que non, il allait mettre les thunes suffisantes pour...
C'est même pas qu'il l'a dit. Il l'a fait.
Il l'a fait, voilà.
Ouais.
Tu l'as vu, toi? T'as vu le chèque et tout?
Non.
Bah voilà. Donc moi, j'attends que je l'ai pas vu, je crois pas.
C'est vrai.
Mais en fait, effectivement, quand on voit les images, ça, pour ceux qui peuvent voir,
bah, c'est sûr,
ça
commence
pas mal du tout. Tu vois, à l'écran, après.
C'est surtout quand tu vas sur le site et que tu lis déjà le descriptif, les mecs, ils
exactement.
Disent voilà, nous, on a pas eu Red Dead Redemption sur PC, donc on s'est dit plutôt que de l'attendre,
exactement.
On va agir.
Ils
on
ont
va
une,
faire
une
un
bonne
Red
réflexion, effectivement.
Et
on peut
puis, s'il y a une promesse qui est autre que juste un truc de cowboy, quoi, c'est que visiblement, on pourra avoir différents jobs dans la frontière, comme ils l'appellent aux États-Unis, c'est-à-dire dans le Wild West. Et donc, tu pourras être, je crois, fermier,
pilote de Formule 1.
Exactement. Tu pourras être toutes ces choses là
on peut tenir un saloon
peut-être évidemment. Peut-être moi j'attends de voir
derrière son bar pendant tout le jeu.
Mais non, mais il y a les...
il fait que ça.
Avec
il y a
des femmes de mauvaise vie,
voilà, les femmes de petite vertu, voilà, avec le mec qui nettoie son verre tout le temps, qui regarde un petit peu les autres se flinguer, puis à la fin
d'où
il sort
tu viens étranger.
Mais honnêtement, il y a quand même un petit côté Red Dead, hein, quand tu regardes l'étoffe,
bah,
tu te dis ouh
là
là,
enfin là ne serait-ce que
sur certaines poses,
sur cette image là si c'est pas Marston, je sais pas qui c'est.
Non, mais ils l'ont fait exprès. Il y a même eu des comparos avec certains screenshots de Red Dead, ils ont,
c'est pour ça que ça a prêté à confusion effectivement. Mais bon, en même temps,
Mais par contre, tu vois, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que les gens étaient là, ouais, non, mais fake, tu sais, ils entouraient des zones sur le screenshot, ils disaient, mais non, c'est un montage. Non, bah non, c'est un vrai jeu.
C'est
juste
jeu.
Pas le jeu auquel vous pensiez, exactement. Mais c'est pas du tout.
Et ça a l'air plutôt joli,
mais
en
c'est
plus.
Vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal.
Oh,
et quand tu dis
voir,
que c'est un mémo, tu te dis, ah oui, quand même, ok. Bon.
Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est à quel point les mecs ont bien joué leur coup.
Ah bah,
ils ont fait fuiter.
Oui, mais est-ce qu'ils l'ont fait exprès?
Ils ont fait,
c'est pas sûr.
Bien sûr. Ils ont fait fuiter sur un site de fans de GTA et de Rockstar un screenshot sans rien dire, aucune mention, juste un screenshot. Donc comme ça, tout le web s'est enflammé, y compris nous.
Tout l'internet du web.
À juste titre. Hein.
Non, moi j'étais sceptique. Je le redis.
Non, mais la question était légitime. On pouvait,
bien sûr.
On pouvait se la poser. Et donc tout le monde en a parlé. Et comme ça, au moment où le démenti tombe, et bah, tous les sites allaient de nouveau être obligés d'en reparler. Et donc là,
alors que personne n'aurait jamais parlé de ce jeu.
Coup de projecteur gratos sur leur jeu.
Je sais pas.
On n'aurait pas mis.
Il n'aurait pas été en une de Gameblog et d'autres sites. Peut-être qu'il aurait peut-être qu'il aurait déjà eu la mention le MMO Red Dead.
Mais ça aurait pas fait.
Mais ça aurait pas été la même courbe.
Là, il a été. Non, mais c'est sûr que là, il a été hypé.
Là, il a été mis en lumière. Et le double kick, le double kill, on va dire, c'est l'annonce d'un Kickstarter supprimé dans la foulée pour dire non, on va la jouer, on
ce
va la jouer
clean.
Honnête
de leur part, c'est bien.
Ah, c'est plus, c'est, ouais, plus
ils auraient pu avoir le beurre, l'argent du beurre et tout.
Sauf que les mecs ont été très 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 habiles, bravo. Après, bon, espérons, voilà, que le jeu soit bon.
Oui, voilà, c'est ça, parce que les promesses en photo, on connaît, mais
il fait envie à regarder. Il faut déjà pour commencer.
Oui, il est beau. Graphiquement, c'est bien fait.
Donc voilà, il y aura normalement pas d'accès anticipé. Ça a été annulé aussi au passage, mais il y aura des bêtas, une alpha et une bêta pour l'été. Le jeu est toujours prévu pour cette année sur PC. Moi, j'ai super hâte de voir ce que ça va donner.
C'est ça qui est fou, c'est qu'il sort presque quasiment de nulle part, en fait. Et...
Ouais.
Il est prévu pour cette année.
Voilà,
déjà.
S'il est prévu pour cette année, ça me paraît bizarre quand même. Que le Kickstarter, ils en avaient pas besoin.
Bah oui, ça me paraît quand même étonnant.
Le Kickstarter, c'était pour des paliers précis, hein, dont pouvoir jouer avec des femmes.
Oui, mais là encore,
c'est pas d'ailleurs de jeu. En
c'est pareil, ces trucs-là, ils sont déjà prévus, quoi.
Prévus, mais
non, je veux dire, en développement.
C'est étonnant que. Ouais. À voir.
À voir, absolument.
En tout cas, c'est une belle promesse. Ça peut être sympa.
Un membre de la rédaction hype ici, qui d'autre?
Ah bah moi c'est pareil, hein, je suis pas MMO, voilà, mais c'est vrai que ça donne envie.
Toi t'es super western, toi.
Moi j'aime bien les western, tu te rappelles de John Wayne?
De John Wayne? C'est qui?
Bah c'est un mec que t'as pas connu.
Ah non, je connais pas John Wayne, désolé.
Le Duke.
Le fail de la semaine maintenant, parce
que
les
gens vont vraiment croire que tu connais pas John Wayne, c'est ça qui est trop génial dans les commentaires.
Non mais il connaît pas,
ouais, bien sûr, dans les commentaires ils vont dire quoi, il connaît pas John Wayne, mais
ah,
c'est une honte.
Ce FDP.
Bon bref, le fail de la semaine, Julo,
c'est John Wayne.
C'est vers toi.
C'est Plume qui connaît pas John Wayne.
Ouais, bah voilà, je connais
c'est,
pas.
C'est plié, c'est la honte.
C'est la honte, quoi.
Non, le fail de la semaine, il concerne Mario Kart 8 12. Deluxe, dans lequel un nouveau personnage apparu avec cette version Switch, à savoir Inkling Girl. On la voit actuellement à l'image.
Et puis garçon aussi. Hein.
Faisait regarde. Non, c'est la fille qui faisait.
Splatoon, mais le garçon aussi.
Bah apparemment non. C'est
non, les deux ils le faisaient. Je te promets.
Écoute,
la vérité.
Alors dans ce cas-là, ils ont laissé le truc pour les garçons parce que dans la patch note de Nintendo, et j'y viens tout de suite, il est question de Inkling Girl uniquement.
D'accord.
Bref, vous avez vu la petite animation si vous avez l'image dans ce podcast. Elle faisait un petit bras d'honneur comme animation. Chaque personnage a une animation quand il double son adversaire ou quand il arrive ou quand il le cogne. Non, quand il le double aussi.
Il y avait le dramatique look de machin truc là.
Voilà. Le Death de Luigi.
Et là, c'était un bras d'honneur, figurez-vous. Voilà, en toute simplicité. Et donc, ça nous a évidemment fait marrer. On trouvait ça génial.
Ou pas.
Tout le monde voulait jouer avec Inkling Girl. Bref, elle est devenue une superstar. Tout du moins en Europe, parce qu'en fait ça nous a permis de nous rendre compte, cette histoire, que le bras d'honneur n'a soit pas de signification, soit une signification moins vulgaire que chez nous, dans les autres pays. Mais Nintendo a fini par s'apercevoir de son erreur et supprimer donc ce
purement
geste.
Purement et simplement.
Bah pas purement et simplement. En
ce
fait,
geste obscène.
Voilà, le geste n'a pas été supprimé, il a été modifié en l'occurrence à la main.
Maintenant elle
s'est
imposée.
C'est non, il y a juste le bras gauche qui se lève, c'est tout.
La main gauche ou droite, ça
un
dépend.
Un bras vengeur.
Voilà. Non. C'est juste un bras vengeur, l'autre main ne se pose pas sur le biceps pour faire un bras d'honneur. Mais du coup, bah c'est dommage.
Mais ça nous a permis aussi d'apprendre les diversités, on va dire
culturelles.
Effectivement,
je suis tombé sur des sites américains qui expliquaient à ses lecteurs, oui, vous savez, en Europe, ce
vous
geste.
Vous savez, les Européens sont bizarres.
Ça veut dire fuck you, etc. Je suis tombé sur des vidéos aussi de gens qui expliquaient. Alors voilà, il y a plusieurs noms que j'ai pas retenu, mais il y a le salut italien.
En fait, aux États-Unis, il y a trois appellations. Il y a le bras d'honneur écrit en français.
En français,
il y a le salut italien et il y a une autre appellation, je crois, en allemand, mais je ne me souviens plus.
Oui, on connaît celui-là.
Enfin, bref, voilà, c'est un truc bien de chez nous, d'Europe de l'Est, apparemment. De l'Ouest, pardon.
Oui.
Dans tous les cas, c'est plus dans Mario Kart 8 Deluxe si vous avez fait la mise à jour.
Certain qu'ils allaient le supprimer.
En plus d'autres petits changements. Voilà.
Bon, c'est très triste.
Mais bon, le fail pour nous, c'est que voilà, on trouvait ça marrant, quoi.
Bah ouais, moi je trouvais ça génial comme idée.
Et bah voilà, maintenant c'est moins marrant.
Adieu. Adieu bras d'honneur. Mais bonjour, thème numéro 1 de la semaine. Messieurs, Destiny 2, ça y est. On l'a vu tourner,
on l'a vu
sous toutes les coutures, j'ai envie de dire, pendant la présentation qui a eu lieu à Los Angeles ce jeudi 18 mai
et
à 19h heure de France.
D'ailleurs, effectivement.
Et Camille
sur
a
place.
Pu y jouer. Vous avez ces impressions qui sont disponibles en ligne. Et Destiny
Exactement.
2, bah écoutez, il y a quand même pas mal de choses à savoir dessus. Je vais me retourner vers toi, Julo, parce que tu es le plus hypé d'entre nous.
Non, mais d'abord, on peut dire qu'on a tous été plus ou moins hypés.
Oui.
Absolument, complètement.
C'est joli ce qu'ils ont montré. J'ai bien aimé, moi, notamment, le fait qu'il y a, semble-t-il, en tout cas, plus de scénarisation à l'intérieur des missions.
J'sais pas c'est la campagne qui a l'air beaucoup plus scénarisée.
Voilà, plus scénarisée, plus cool. En même temps, on a vu que la première mission, Oui. Et cette première mission sert justement à introduire un peu ce Destiny 2 dans, voilà, pour tous les joueurs qui avaient joué déjà au premier. Pour ceux qui n'avaient pas joué au premier et qui vont peut-être jouer à ce deuxième épisode, fallait trouver un peu une pirouette, cacahuète. Et la pirouette cacahuète en l'occurrence, c'est que les humains se font attaquer et complètement détruire dans cette première mission qui est donc ultra scénarisée, ultra punchy, etc. Et où tous les personnages ont des pouvoirs de gueudin et un peu à la façon de Metroid finalement, pour trouver un point de comparaison, eh bien les humains vont totalement être
délogés.
Ils vont perdre totalement cette énorme bataille et tout va recommencer à zéro et vous allez devoir donc incarner un gardien et retrouver petit à petit votre stuff en faisant des missions et des missions et des missions et des missions et des missions.
Et encore des missions et voilà. Plein de missions.
Mais là c'est de mes mémoire, je me trompe peut-être, mais rien que des cinématiques dans le premier Destiny, il y en avait pas pas à ce point-là. Enfin,
c'était en fonction. Je crois que c'était des chapitres dans le premier Destiny, et c'était, à mon avis, il devait y en avoir 5 en tout des vraies cinématiques.
Il y a un autre élément où tu vois l'accent mis sur la mise en scène et la scénarisation, c'est que tu vois beaucoup plus de personnages sans casque ou sans masque.
Aussi.
Et tu vois dans les cinématiques, tu vois des visages humains. Plus fréquemment et ils mettent plus l'accent, tu vois, sur les artworks. Par exemple, sur le site officiel, tu vois trois gardiens sans masque.
Ah oui, mais sur la jaquette du jeu, c'est trois gardiens sans masque.
Alors que de mémoire, sur le premier Destiny, tout le monde était masqué.
Ouais, absolument. Et puis ils ont mis l'accent aussi sur le casting, parce que là, ils ont recruté, en tout cas pour la version, on va dire la version d'origine, quoi, la version anglaise. Ils ont recruté pour incarner trois des gros gardiens du jeu, des acteurs de classe mondiale. À commencer par Nathan Fillion, donc qui va jouer Kate Six. Nathan Fillion, si vous savez un petit peu. Si vous suivez un petit peu la télé, c'est notamment Firefly ou Castle. Il y a aussi Lance Reddick qui joue le Big Boss, on va dire. Et Lance Reddick, si vous suivez le jeu vidéo, enfin si vous suivez la télévision, vous avez regardé Fringe, il était dedans. The Wire, il était dedans. Si vous avez joué à Quantum Break, il était dedans. Si vous avez joué à Horizon, il était dedans. Bah là, maintenant il est dans Destiny 2. Et puis Gina Torres, donc pareil dans Madame Morpheus, Madame Laurence Fishburne. À la ville et dans Hannibal aussi d'ailleurs qui joue aussi dans Firefly. Ça fait quand même trois pointures, j'ai envie de dire, d'Hollywood qui ajoutent leur timbre et puis leur humour aussi, parce que Nathan Fillion il vient pas juste pour doubler comme ça.
C'est
lui qui jouait dans Halo 5 déjà et dans Halo DST donc voilà, ça fait quand même des gens sur qui on peut compter.
C'est marrant, c'est qu'on parle, tu sais, de street cred des fois pour certains artistes, etc. Et bah là en fait ils vont taper dans des acteurs qui ont de la geek cred.
Nathan Fillion joue à Halo depuis longtemps, hein. Il l'a toujours dit,
ouais, et auprès du public un peu geek justement, ouais. il a une popularité qui est assez dingue. Les geeks le veulent partout, dans tous les films.
Je le voulais en attendant Drake à un peu moins de 10 ans. Bon, je l'ai pas
Elijah Wood,
malheureusement, parce qu'il a grossi puis il est vieilli aussi.
Et il y avait pas Peter Dinklage dans le premier.
Alors Peter Dinklage faisait la voix du gardien et puis ils se sont rendu compte que c'était pas bon, ils ont mis Nolan North après.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais,
j'avais oublié cette histoire.
Julo
va rajouter 3 millions de trucs.
On a appris quoi finalement,
le véritable fil rouge d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Camille dans ses impressions. C'est, est-ce qu'on est en face d'un Destiny 2.0
ou 1.5
ou 1.2 ou 1.2 ou 1.5 ou 1, ce que tu veux, enfin bref, est-ce que c'est vraiment 1.1. Une grosse étape qui est franchie, ou est-ce qu'on a l'impression de jouer à une version améliorée du premier jeu? Cette question elle se pose pour différentes raisons. Alors d'abord parce que on nous a annoncé qu'il y avait certes 4 nouvelles planètes, donc des nouveaux lieux, etc. On a vu que il y aurait peut-être un peu de scénarisation comme on le disait, etc. On a vu des nouveaux pouvoirs, mais il y a toujours que 3 classes dans le jeu. Il n'y a pas de nouvelles classes, par exemple.
Il y a des nouvelles sous-classes.
Exactement. Donc il y a toujours les titans, les chasseurs
et
les arcanistes, pardon. Mais dans chacune de ces classes, il va y avoir de nouvelles sous-classes avec à chaque fois des furies différentes. On en a vu qu'une qui était vraiment pas mal dans la séquence de gameplay, c'est quand le personnage saute très haut et envoie des espèces d'épées lumineuses sur les ennemis comme
très,
ça qui explosent.
Très classe. Très Overwatch, Diablo d'ailleurs. d'ailleurs.
Ouais, hein, c'est très inspiré de Overwatch, c'est vrai, carrément. On a vu aussi le fameux bouclier dans lequel tes amis peuvent s'incruster. Voilà, donc ça, c'est les arcanistes. Voilà, donc il va y avoir des sous-classes, mais pas de nouvelles classes. Pas du tout de nouvelles classes. Après, on a parlé de pas mal de nouveautés. Et dans ces nouveautés, ça sent un peu plutôt des gros manques du premier qui sont là dans à peu près tous les jeux qui existent et qui avait pas dans le premier Destiny et qui arrive là. Alors par exemple, on nous a parlé du guided game, donc en fait c'est du matchmaking tout
simplement.
Et quand on sait
que Bungie est à l'origine quand même de Halo 3, qui est une et Halo 2 aussi, hein, c'est même le premier. Mais je crois que c'est Halo 3 surtout.
Alors il y aura certainement des subtilités, mais finalement c'est juste l'amélioration d'un matchmaking qui était peut-être pas optimal dans le premier Destiny. On nous a parlé aussi de l'arrivée des clans comme une grosse nouveauté. Bon, il se trouve que
ça a clashé, moi je dis.
Non mais d'accord, mais je veux dire les clans etc. dans un jeu qui est très communautaire comme ça, c'est un peu basique, c'est une évidence, voilà. On sait que le PVP va être amélioré aussi, qu'on va déjà désormais jouer à tous les modes PVP en 4 contre 4.
Ça c'est bien ça.
Mais c'est moins de joueurs, des groupes de joueurs moins importants en termes de nombre qu'auparavant. Donc ça va certainement avoir un impact sur le
dynamisme. Il y aura plein de nouveaux modes.
Voilà.
Ouais, plein de nouveaux modes, dont un qu'a essayé Camille, dans lequel il faut poser des bombes dans le camp adverse et garder son camp. Donc c'est pareil,
groundbreaking. Il pousse les boundaries des modes de jeu là.
Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est le gros point d'interrogation. Après, le jeu a l'air quand même vraiment cool. Enfin,
l'univers, moi, je trouve.
L'émission qu'on a pu voir, était quand même hyper impressionnante. Le jeu
peu qu'on a
super
vu
beau
en termes de gameplay. C'est quand même assez rassurant au niveau technique, parce que le premier il pêchait énormément de ce côté là faut quand même le dire.
Moi, le premier,
c'était vraiment pas un super beau jeu,
mais pas bluffé.
Et là
plus que ça, hein.
Là on a l'impression que au sein même
là, c'est un jeu actuel.
Pourtant on a fait,
là tu parles plus, tu dis beau jeu, je trouve qu'il était déjà, il était magnifique, mais il était pas complexe, on va dire, techniquement
là
techniquement c'est quand même beaucoup plus impressionnant.
Je sais pas, moi la tour on l'a faite dans le premier Destiny, on l'a parcouru. Là on a l'impression que les différents départements de la tour dans lesquels on va dans cette première mission sont bien marqués, donc vraiment une différence. C'est pas juste un couloir en métal pourri quoi.
Ce qui est vraiment impressionnant, moi je trouve, avec cette équipe de Bungie, c'est qu'ils ont des designers, des artistes de grand talent quoi.
Des concepteurs,
parce que ce jeu a une gueule bien à lui, mais il a une pure gueule quoi. Enfin,
une gueule bien à l'eau surtout.
Les personnages, les lieux, les vaisseaux, tout a.
L'univers, je le trouve magnifique.
Ouais, tout est vraiment classe dans cet univers.
Ça me pense un peu à Avatar.
Comme techniquement, c'est quand même nettement amélioré par rapport au premier Destiny. Après, attention, là, on est en train de voir
une
version PC. Parce que
à 4000 euros.
La grosse nouveauté, minimum, c'est évidemment la version PC, parce que Destiny 1, vous le savez, est sorti que sur PS4 et Xbox One. Donc là, en l'occurrence, la version PC, elle aura l'avantage évidemment d'avoir techniquement d'être techniquement la version supérieure. Voilà, ça va être bloqué.
Il n'y a pas de date de sortie encore, par contre, sur PC.
Oui. Il va sortir un petit peu après normalement. Donc au niveau technique, déjà ça va être plus d'effets, plus de réglages possibles selon les configurations évidemment. Mais justement, par exemple pour le framerate, il va être unlocké sur PC. Tu pourras aller très loin dans le framerate. Il y aura pas de limite. Ça sera aussi loin que ta machine peut t'emmener.
Vous ne voyez pas la caméra évidemment, mais Poufy esquive un grand sourire. Voilà.
Et tu pourras avoir une résolution 4K également si t'as le matos qui va.
Enfin, 8K, vient de ressortir le 8K.
Voilà. Sur PS4 et Xbox One, les versions.
Ça sera loqué
à 30 images secondes.
Voilà, ça sera loqué à 30 images secondes, y compris sur PS4
Pro.
Sur PS4 Pro,
voilà. Ça c'est pas normal par contre.
La version PS4 Pro sera quand même supérieure à la version PS4 normale. Hein, et on imagine également pour la Xbox Scorpio et la Xbox One quoi. Donc
j'ai bien hâte de voir la version Scorpio. D'ailleurs, Bungie a pas le droit d'en parler avant la conférence Microsoft.
Bah normal. Il se garde des cartouches quand même.
C'est quand même très très beau. Enfin voilà,
ça a l'air plus nerveux que le premier.
On voit
qu'ils
l'ont peaufiné quand même.
Bah écoute, on a pu voir quelques séquences de gameplay qui ont été capturées sur place à Los Angeles aussi. On nous a montré quand même la première mission qui est là pour vraiment introduire cette nouvelle histoire, etc. Qui est là pour t'en foutre plein la gueule dès le départ.
Plein la face.
Le reste, Ça a l'air classique. C'est un peu plus mou que ça, quoi. Enfin, ça a l'air un peu plus Destiny, quoi.
D'accord.
Un peu plus calme, un peu plus répétitif, si peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, ils ont amélioré aussi un truc qui me paraissait important. C'est que dans le premier, tu sais, tu faisais du comment on appelle ça, des patrouilles. Tu patrouillais en fait dans les différentes maps, et puis quand il y avait des ennemis qui apparaissaient, tu faisais du loot, etc. Là, ils vont mettre un peu plus d'événements différents, des aventures, comme ils disent. Donc on va avoir plus de liberté dans les activités qui vont être proposées. Donc il y aura des donjons, il y aura des chasses au trésor, des choses comme ça, qui vont permettre d'un peu moins s'ennuyer sur les maps. Et puis dernière chose quand même, et là c'est pareil, on nous le lance comme une nouveauté, mais on a envie de dire putain, mais Dieu merci, ils ont fait ça.
Tu vas parler des chargements, non ?
Bah exactement en fait, c'est-à-dire qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez de quand vous avez joué à Destiny, mais en gros, quand t'allais faire une mission quelque part sur une planète, tu pouvais pas aller faire une autre mission sur une autre planète. Il fallait que tu reviennes en orbite, et une fois que t'étais en orbite, il fallait que tu repartes sur une planète, etc.
Là, tu peux y aller directement,
et là maintenant, tu vas pouvoir effectivement directement depuis une planète aller sur une autre et lancer une autre mission, etc. Dieu merci. Voilà, mais c'est une nouveauté aussi. Bon. Voilà, donc. Je pense qu'on y verra plus clair au moment de la bêta, hein, qui va avoir lieu
cet été.
Et puis à l'E3, j'imagine qu'à l'E3 on en verra plus aussi, et que
bien sûr à l'E3
et que vous risquez d'en voir un petit bout et d'y jouer et de vouloir repartir avec
très certainement.
Voilà. Et de voir que ça tourne sur 4 PC.
En tout cas, etc. on peut dire que c'est un premier coup d'œil assez encourageant, quoi. C'est beau, ça a l'air cool, mais nous-mêmes, hein,
quand... la conf était sympa en plus.
Ouais, on était à la rédac, on suivait la conf tous ensemble, on s'est dit putain, on aimerait bien y jouer en fait.
Moi Romain. Je me disais en voyant tout ça, c'est que la fin d'année 2017 pour Activision, ça va être quelque chose, parce qu'entre Destiny 2
Call of Duty World War II,
là ils ont deux gros trucs très attendus qui déboulent.
Ils peuvent faire la razzia sur le FPS pour la fin d'année, hein, sans aucun problème, hein. Que ce soit pour le multijoueur ou pour le solo avec Call of Duty.
Ouais, mais regarde, l'année dernière ils ont fait quoi, ils ont sorti Titanfall 2 en même temps que
c'était Titanfall 2, hein.
Oui.
C'était Titanfall 2 et Battlefield 1,
genre une semaine d'écart à peu près.
Oui, voilà, donc c'était Electronic Arts avec Titanfall 2 et Battlefield 1. Du coup Titanfall 2 a fait un four.
Ouais, mais regarde, la Destiny c'est enfin sur
deux mois d'écart,
c'est 8 septembre, ouais. Et Call of Duty c'est début novembre, un truc comme ça, donc tu vois t'as un peu d'écart quand même.
Il y a deux mois d'écart, ouais.
Bon, en tout cas, ça fait rudement envie. De notre côté, en tout cas, on est totalement hypé, on peut le dire. Je sais pas si on aura le temps d'y jouer. J'imagine que Poufy, lui, va y passer toute sa vie une fois qu'il l'aura.
Toute sa jeunesse.
Mais nous, il faudra voir un moment où il va sortir. Parce que si c'est comme le premier et qu'au bout d'un moment, c'est un peu vide et qu'on se rend compte que c'est répétitif. Et que bon, voilà.
Ah, hein. Bungie a précisé quand même qu'il y aurait.
Le premier, le contenu est venu après. Hein.
Oui, justement, Bungie a précisé qu'il y aurait dès le départ
un contenu toutes les 3 jours.
Non, qu'il y aurait donc dès le départ un raid et dès le départ du PVP, ce qui n'était pas le cas lorsque Destiny est sorti le premier.
Bon. Voilà. Bon, en tout cas, on surveillera ça. Je suis Gaulle et votre lumière.
J'ai la Gaulle et vive la lumière.
Voilà. Elle m'appartient, la lumière. Bon, bref,
je donne la lumière.
On va passer maintenant au thème numéro 2.
C'est pas mal comme
c'est un chef de guerre cabale.
On rappelle donc que ce Destiny 2 sort le 8 septembre sur PS4 et Xbox One
et un peu plus tard sur PC.
Et arrête de dire la même chose que moi.
Je suis pas fait exprès.
Ouais, tu fais pas exprès, tu parles. Thème numéro 2, messieurs.
Tiens, regarde ce qu'il y a écrit.
Un thème qui nous a beaucoup occupé l'esprit. Ces derniers jours.
Et les oreilles.
Et les oreilles surtout.
Ah non, pas ça, pitié.
Si, absolument.
Il y a un thème dans le thème là.
Ouais, il y a un thème dans le thème.
Pourquoi vous avez fait ça ?
J'espère que je vais réussir à le lancer parce
que
ça marche pas à tous les coups, hein, quand j'essaye des trucs. Est-ce qu'on entend bien ?
Séquence relou.
Côté Poufy, est-ce qu'on entend bien ?
Oui.
Voyons, mais des moyens, hein, chez Gameblock, quand on veut mettre de la ZIC. On utilise une platine dernière génération.
Une platine tourne-disque.
À savoir mon téléphone. Alors on va parler de ARMS. Parce que ARMS, c'était un petit peu la grosse interrogation qu'on avait depuis le 13 janvier quand il a été montré. Nouvelle licence de Nintendo.
C'est
jeu de baston avec motion control. Ben voilà, j'ai eu l'occasion d'aller le voir à Francfort chez Nintendo Europe. D'y jouer pendant des heures.
Et t'as kiffé ou pas ?
Je pense que Nintendo ils tiennent un vrai filon avec ce jeu finalement. Et pas
cette
un
chanson aussi.
Et puis surtout une chanson
là, au top 50 direct.
Ah bah,
alors pourquoi pas présenter à l'Eurovision ?
Une chanson extraordinaire que je vais passer d'ailleurs sur le micro de quelqu'un d'autre parce que
tiens.
Voilà, on va passer sur le tien, comme ça je m'entendrai quand je parle. ce sera un petit peu mieux. Donc ouais, je pense qu'ils tiennent un bon filon parce que leur ambition de faire un jeu de baston à la fois accessible et profond, accessible donc parce que jouable au motion control et profond parce
Stop.
Que oui. Voilà,
Michael
et
Jackson.
Aussi,
ah là, c'est bon, là, je pense.
Voilà,
maintenant,
la
séquence Michael Jackson.
Maintenant, on va baisser tranquillement le son. Attendez, je baisse tout doucement. Voilà. J'ai envie de l'écouter encore, je sais pas pourquoi.
Bon, boucle, on va arrêter. Et je sais que, cher auditeur, vous l'avez en tête aussi.
Ah, bah c'est foutu,
elle ne sortira pas de votre tête avant.
Non, mais c'est terrible que vous le sachiez, on a eu droit à ça toute la semaine.
Toute la semaine qui vient de s'écouler. Ah, bah
parce qu'en fait, vous pouvez télécharger, au moment où on enregistre, vous pouvez déjà pré-télécharger la démo en fait qui va avoir lieu du 24 au 20. Non, le 25 et 26 mai et ensuite le 3 et 4 juin. Ce sera des Global Test Punch Session. Session. Bon bref, des sessions d'essai quoi, que vous allez pouvoir essayer Arms tranquillement chez vous sur votre Nintendo Switch.
De bêta ouverte en gros.
C'est de la bêta ouverte absolument pour tester un petit peu le jeu en ligne pour voir ce que ça donne. Et donc on va revenir à l'essentiel concernant donc l'accessibilité de ce jeu de combat vu en TPS qui est donc très simple vraiment à prendre en main. On avait déjà pu le voir Romain et Julo,
même essayé,
et même Traz quand on avait pu l'essayer le 13 janvier dernier au Grand Palais. Bah, ça se confirme, c'est toujours aussi simple, mais ça veut pas dire que c'est simpliste. Ce que j'ai pu voir, c'est que chacun des personnages a ses spécificités, c'est-à-dire que chacun a ses petits pouvoirs spéciaux, sa propre rapidité,
sa technique,
ses propres armes qu'il va pouvoir assigner à chacun de ses points. Puisque je le rappelle, le concept c'est que dans l'arène on retrouve deux personnages avec des bras extensibles un peu à la Dalsim, et au bout desquels y a des armes différentes. Et donc le but c'est de se mettre sur la gueule évidemment et d'arriver à la fin des deux rounds en étant victorieux.
Qu'est-ce qui rend le gameplay technique?
Qu'est-ce qui rend le gameplay technique? Eh bien c'est que les personnages, donc comme je le disais, ont leurs spécificités, que leurs armes, on a des sets de 3 armes à choisir et à assigner à chaque bras, sont aussi différents. Il y a des armes beaucoup plus rapides. En fait,
oui, t'as les armes lourdes et les armes rapides en fait, et genre quand elles se croisent, c'est les armes lourdes qui gagnent sur les armes rapides.
Exactement, parce que
c'est pierre feuille ciseaux.
Exactement. Et donc on a du rapide, du moyen et du lourd.
T'as le toaster
et
aussi.
Donc forcément vous, parce que vous perdez en vitesse avec le lourd, vous le gagnez en patate, et donc du coup si jamais les points se croisent, et ben c'est votre point qui l'emporte, et qui du coup un petit peu comme dans Dragon Ball, vous voyez quand les faisceaux se croisent et qu'il y en a un qui l'emporte, et ben paf, vous allez jusqu'au bout, tandis que l'autre il prend sa patate dans la gueule. Il y a plein de petites subtilités.
Il y a des chocs
en
aussi,
fonction
sympa.
En fonction évidemment des personnes que vous incarnez. Et là, de ce côté-là, ça fait un peu penser à Overwatch. Là, si vous êtes premium, vous pouvez voir une petite fille dans un robot jaune.
Mechanica.
Si ça fait pas penser à Overwatch, je sais pas à quoi ça fait penser. Donc c'est les personnages, c'est les armes. Et c'est aussi les arènes. Puisque dans les arènes, il va y avoir différentes configurations. Il y en a qui auront des piliers pour justement essayer de jouer un petit peu avec avec le fait qu'on est masqué, mais des piliers qui sont destructibles. D'autres
et
endroits.
D'ailleurs, à ce sujet, quand tu envoies ton point en mode reconnaissance
en mode
de mouvement, tu peux lui donner en fait une direction après. Là, voilà,
un petit effet.
Tu peux passer à droite d'une colonne et repartir à gauche.
Exactement. Et ce qui marche bien aussi avec les boomerangs, avec les armes boomerang, pour qu'elles reviennent ensuite dans la gueule de l'adversaire, mais par derrière. Et ça marche plutôt pas mal. T'as cette possibilité aussi à la manette, hein. Tu peux l'imprimer. Alors là on en vient maintenant au jeu avec le pad pro, c'est que tu peux imprimer aussi les mouvements dans les gestes.
Ah, est-ce que c'est aussi précis qu'avec le Joy-Con?
Alors c'était un des trucs justement qu'on craignait quand on a été y jouer à Francfort. Je suis parti avec d'autres journalistes. Il y avait Eric de GamerGen, Pouillot de GameCult, Panta de jeuxvideo.com et Lorly de Jeux Actu. Et c'était une des premières choses sur lesquelles on s'est jeté, savoir si à la manette ça allait bien passer. Mmh. Bon, on était en fait pour la plupart plus conquis par le jeu à la manette, parce que plus naturel pour nous qui sommes nés avec des manettes, plutôt que parce que quand on joue avec le motion gaming on est vite crevé parce qu'on n'est pas des sportifs à part l'Orly, et donc du coup on se rend compte qu'à la manette ça passe super bien, et ça permet peut-être même d'apprécier plus le jeu pour certaines franges de joueurs, je pense. La signature, enfin
Le tuto, tu le découvres assez facilement. L'assignation des touches, ça passe très bien. Et du coup, tu peux te faire des combats peut-être même un peu plus dynamiques. Et peut-être plus sûr de toi aussi quand tu fais tes mouvements que quand tu passes.
Comment tu dashes dans le jeu ?
Comment tu dashes ?
Ouais.
En fait, c'est sur les tranches. Le dash est sur le R, non, sur L. Et le saut est sur R. Donc du coup tu mixes entre ces deux trucs là pour de temps en temps justement essayer d'esquiver plutôt que de rester comme un gros bourrin sur place ou en mettant juste.
Je te disais ça, je sais plus ce que j'ai vu ça, si c'était Nintendo qui le disait, mais qui la préférence par rapport au gameplay aller vers
le
jeu en motion gaming parce que il y a un truc avec en rapport avec le dash. Que tu peux pas faire genre mettre de l'effet avec tes deux points en même temps que tu dashes, un truc comme ça.
Tu peux pas mettre deux effets séparés sur en même temps, tu vois. Genre par exemple, tu peux pas te diriger dans une direction
voilà,
et envoyer un coup dans une autre
ça.
Direction.
Alors que tu peux le faire en motion gaming. C'est plus compliqué, mais
tu peux pas aller sur un côté
et
envoyer un coup en faisant un effet de l'autre côté.
Ah peut-être, mais en tout cas, ça nous a pas spécialement gêné.
C'est un détail de l'histoire.
Après,
c'est
quand tu commences à rentrer un peu dans la technique. Mais ils ont surtout montré plein de nouveaux persos et ils ont.
Oui,
trois persos en plus.
Moi, ce que je trouve assez brillant.
Il est pas mal celui qu'on voit à l'écran.
Ils sont en train de réussir ce qu'ils avaient déjà réussi avec Splatoon.
Exactement.
C'est à créer une nouvelle licence qui a de la gueule avec des. Voilà, bon, c'est chelou quand même, cette histoire de bras extensibles, etc.
Oui, mais au moins,
Non, mais c'est hyper identifiable.
Mais en tout cas,
c'est hyper novateur et identifiable. Tu vois
exactement.
Ce que je veux dire.
Et
au fur et à mesure qu'ils annoncent de nouveaux personnages, tu te rends compte qu'ils ont tous vraiment des spécificités énormes, quoi, qui les différencient totalement des autres personnages.
Exactement.
C'est pas casting à la mort molle quoi.
Tu les vois les amiibo arriver après ou pas?
Ah bien sûr.
Et en termes de gameplay, c'est nettement plus sophistiqué que ce qu'on avait pu voir au Grand
Absolument,
Palais. Parce que finalement, le Grand Palais, c'était vraiment une initiation. Tu vois, il n'y avait pas les questions d'armes.
On avait expliqué. Il y avait quelques choix quand même dans les armes.
Mais il n'y en avait pas autant que ce qu'on.
Ce qu'on a vu, c'est comme ce qu'on a vu au Grand Palais. Ils en ont chacun trois différents qui peuvent assigner.
Par contre, tu vois, moi au Grand Palais, on pouvait jouer qu'en motion gaming. Et j'aurais été curieux de pouvoir essayer la manette parce que personnellement le motion gaming j'en avais eu marre assez vite, j'avais trouvé que les postures étaient pas toujours très naturelles.
Oui, mais souviens-toi,
t'es obligé de pencher tes deux mains dans des positions pas forcément confortables.
La remarque que je m'étais fait parce que là ils viennent d'annoncer que c'est jouable à la manette, ok, mais je veux dire pour moi c'est ce que je me disais depuis le début, c'était déjà évident parce que la Switch tu dois pouvoir y jouer sur l'écran télé et tu dois pouvoir y jouer avec la tablette dans les mains, donc il y avait forcément un mode manette.
Ce qu'on a fait d'ailleurs, puisqu'on l'a essayé aussi en mode tablette, c'est très propre d'ailleurs sur la tablette. Hein. Le jeu est déjà très beau sur un écran normal, en tout cas très clean. Et en mode tablette, c'est pareil. On a pu essayer aussi avec un seul Joy-Con.
Basket,
volleyball,
basket.
Il n'y a pas que ça, je vais en parler juste après. On a pu essayer donc avec un seul Joy-Con, ça marche très bien aussi. Bref, en termes d'accessibilité pour la prise en main, c'est immédiat dans tous les modes. Et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, oui, il y a eu des nouveaux personnages donc et surtout des nouveaux modes de jeu. C'est le truc qu'on craignait au début. C'est quoi la.
C'est juste un versus ou voilà.
Et ben voilà, c'est pas juste un versus. Il y a évidemment du versus en 1 contre 1, mais aussi du versus
sportif
2 contre 2. Où là c'est carrément le bordel. Et il y a aussi des mini-jeux, on va dire, dont celui que vous voyez là tout de suite à l'écran, qui est un 1 contre 100 où vous devez vous faire une vague de 100 ennemis d'un seul coup et puis avoir une petite surprise à la fin. Je veux vraiment pas vous la dévoiler, hein, je le ferai pas, mais il y a un truc
c'est
très
Mario
méchant
qui arrive et tu dois le défoncer.
Non, il y a un truc très méchant à la fin. Il y a aussi évidemment un mode campagne en solo qu'on a pu essayer aussi en partie. Et ces mini-jeux, donc un jeu de basket dans lequel vous devez assommer votre adversaire
et le foutre dans le panier après,
et ensuite vous devez faire une chope pour le mettre dans le panier. Donc c'est
avec.
Bien humiliant. Un autre mode qui
le
lui
volleyball,
est,
j'ai vu passer le volleyball là.
Oui, il y a le volleyball absolument. Donc le volleyball où vous allez faire du volley, je sais plus si c'est dans Tekken 3 je crois, où il y avait du volley je crois qu'il y avait
Tekken 3
voilà. Ouais. Bah, c'est exactement le même style hein. Vous êtes à deux par équipe, vous pouvez même être un seul par camp et le but c'est de pas que la balle ne tombe pas dans votre camp évidemment, et il y a des subtilités comme je l'avais déjà expliqué dans mes impressions, c'est-à-dire que quand vous faites une chope, la balle va s'élever un peu plus et attendre que vous la smashiez en fait. Et c'est très très rigolo aussi dans le principe. Je crois que c'est celui que j'ai préféré d'ailleurs, hein, le volleyball. Et puis il y a un autre qui est une espèce de stand de tir avec votre adversaire qui est en face. Et le but c'est de dégommer toutes les cibles qui sont au milieu. Et là, faut faire très gaffe quand vous êtes en Joy-Con parce qu'il y a des possibilités de diriger évidemment vos deux points distinctement, et sachant que vous pouvez les écarter pour essayer d'avoir plus d'amplitude, mais en même temps là vous avez beaucoup moins de longueur, et donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et vous pouvez aussi assommer votre adversaire, lui mettre une mine et en profiter pour abattre toutes les autres cibles au passage. Mais alors, et c'est très rigolo aussi, mais peut-être plus limité.
Question,
question donc, de Madame Machin de Bidule.
Tu dis que t'as bien aimé le volleyball,
ouais.
Mais je veux dire, tous ces modes là auxquels t'as pu jouer, est-ce qu'ils sont là un peu pour gonfler le nombre de modes de jeu un peu artificiellement et avec des trucs un peu simples, et en fait le vrai gros du truc c'est le mode versus
Ça c'est évident, mais ça c'est
mais
comme
c'est évident, mais je sais pas, ça pourrait être des modes intéressants.
Ah bah c'est intéressant. Ah, moi le volet, je sais que
jamais content les joueurs, hein.
Je sais que à mon avis il y aura plein de gens qui vont kiffer le volet, et même nous parce à la rédaction je pense qu'on y jouera au volet, tu vois. Le basket je suis un peu moins convaincu,
par exemple dans Rayman Origins Legends,
il y a un football,
ouais, le truc
c'était génial, le truc.
Voilà, ils se sont rendus compte que c'était génial, du coup ils en ont fait un truc vraiment spécial sur la version Switch.
Ouais, absolument.
Est-ce que là il y a des modes que t'as trouvé genre vraiment super super cool, quoi?
Bah, le volet, oui, je viens de te le dire.
À part le volet,
Le basket je suis un peu moins convaincu, parce que en plus au basket on peut jouer qu'en 1 contre 1,
c'est répétitif, ouais.
Donc du coup bon, dommage. Tu fais vite le tour, et puis
et le truc des cibles et des 1 contre 100,
ah, le cible, moi là, ça me botte pas du tout.
Ça botte pas, et les 1 contre 100,
et le 1 contre 100, bah c'est du pareil,
c'est un classique, ça.
T'es tout seul, et bon, enfin,
ouais, donc c'est surtout le volet, quoi.
Le volet,
ils en ont mis au moins des modes différents.
Ils ont mis des modes de jeu différents, et il en restera à mon avis qu'ils vont annoncer, plus le fait que il y aura du jeu en ligne aussi, qu'on a pu voir pendant le Nintendo Direct. Il y aura tas de façons de s'éclater en ligne. Donc
t'as pu jouer combien de temps versus comme ça?
De quoi?
T'as pu jouer combien de temps? Quelques heures?
On a joué plusieurs heures, nous. On est arrivé le matin, on est reparti en milieu d'après-midi.
Et est-ce que t'as senti une marge de progression énorme dans ton appréciation de tes bras, etc.?
Il doit y avoir une marge de progression.
Est-ce que t'as senti vraiment que tu progressais en termes techniques?
Parce que techniquement je suis lâché.
Est-ce que tu t'es musclé?
Mais j'ai senti par contre certains de mes adversaires français gagner en, comment dire,
en skill,
en assurance au fur et à mesure qu'ils faisaient leur combat.
Parce que moi je te cache pas que quand on y avait joué au Grand Palais,
t'as pris les branlés déjà.
Oui, parce que j'y arrivais pas.
Non, mais le mec il maîtrisait. C'est lui qui faisait la démo.
Je jouais contre moi.
Ah pardon.
J'ai
compris que j'étais.
J'arrêtais pas de faire des coups point dans le vide,
c'est normal,
et je trouvais ça
c'est super normal.
Bah non, mais lui il m'en mettait en pleine gueule, et j'arrêtais pas de mettre des coups de poing dans le vide, d'une part, et d'autre part je trouvais que ça créait du coup des situations molles,
parce qu'il y a petite latence.
Bah ouais,
aussi.
Le point il part comme ça, tu dois attendre qu'il revienne, tu peux pas.
Il y a une petite latence,
il y a juste un moment où tu fais ta furie,
oui, voilà, c'est ça,
et essayer d'envoyer ton.
Mais c'est exactement ça en fait, quand tu lances ton truc, tu sais que tu peux faire autre chose en même temps.
Exactement.
Mais il faut le savoir à la base, et
il faudra faire,
le faire, c'est plus compliqué.
Il faudra faire en fonction du personnage que tu incarnes. Tiens, tu vois par exemple, il y a lui, la Bite and Bark, qui est en fait divisé en deux, avec le deuxième qui est une espèce de satellite qui envoie des points de temps en temps de façon totalement erratique, et qui te file un coup de main, quoi. C'est un robot chien
de l'année.
Ouais.
C'est vrai. Ça y est. Mais je pense que c'est vraiment plus technique et tactique qu'on
clairement
pense,
bah, vu ce qu'on voit dans la vidéo depuis tout à l'heure,
pour tout maîtriser
les stratégies et tout.
Alors y aller, hein.
Je pense que là Nintendo, tiens, peut-être, je sais pas combien de jeux de baston ils ont fait dans leur existence à part Smash Bros, mais et Smash Bros aussi d'ailleurs, qui est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine, hein.
Smash Bros, c'était mauvais, si t'es mauvais ça se voit tout de suite, hein.
Je pense que Smash Bros est de toute façon et restera plus technique que ça quand même.
Bah c'est pas le même genre de truc.
Attends de voir.
Je dis pas qu'il est pas technique.
Smash Bros, il y a un milliard de coups. N'importe quoi.
Smash Bros, c'est un vrai jeu. Un vrai jeu de baston.
C'est un truc
technique.
Bah, celui-ci, on en est pas loin. Honnêtement, il y a des subtilités qu'on n'a pas, que moi je ne saisirai jamais parce que c'est pas mon truc.
C'est plus de la boxe, machin, que.
Ouais, mais il y a vraiment quelque chose à faire.
En gros, c'est savoir le poids et la rapidité de ton personnage, le poids et la rapidité de tes armes, faire un bon combo entre les deux, et ensuite arriver à bien éviter frapper quoi.
Ah, mais t'imagines faire ça avec chaque perso, chaque point, chaque machin, et ils ont tous une technique différente et des points différents,
c'est
machin.
Plus technique que ce qu'on pense.
En plus, tu peux dire que là t'as différentes armes, t'as ton point de différents personnages,
et c'est ça, donc tu peux avoir deux armes différentes,
les combinaisons d'armes, etc. ça va changer pas mal de trucs.
Ça va l'effectuer,
moi je serais
sans oublier qu'il y a des éléments qui peuvent, quand vous chargez vos armes, on le voit à l'écran, c'est-à-dire que quand vous réussissez une paire de coups, si vous chargez votre arme, une paire de coups tranquille, qui passe crème comme disent les jeunes, il y a des éléments qui s'appliquent, le feu, la glace, l'électricité, pour justement bloquer ou empêcher votre adversaire pendant quelques instants. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'il va falloir essayer de saisir pour bien apprécier ce jeu, mais en tout cas.
Et le décor c'est pas mal en plus.
Non mais il est ultra bien fait ce jeu. Vraiment.
En tout cas, je serais pas étonné au moins un de ces personnages-là débarque dans la version Switch de Smash Bros. Qui sort.
Ah, je pense qu'ils vont faire des.
Et vois, si je devais, si je devais prendre les paris, je pense que la star du jeu, ça va être le vert qui est tout.
Elix.
Elix là.
Elix, il est rigolo.
Moi, je l'avais tout son amiibo tout de suite.
Elix, il est juste génial. C'est dommage qu'on n'ait pas accès au menu parce que quand tu fais la sélection des personnages, Elix, il est en train de danser. Il est vraiment en rythme sur la musique.
On l'a vu tout à l'heure.
Et vraiment, il est extraordinaire ce personnage. Je pense que ça va être mon petit préféré.
C'est vrai.
Voilà. Donc rendez-vous le 16 juin hein, pour la sortie du jeu pour savoir si vraiment ça vaut le coup, si c'est le Overwatch du jeu de baston made in Nintendo ou pas. Et puis avant ça, il y aura les sessions d'essai, comme je vous ai dit, fin mai et début juin. Et ça peut être une des. Enfin, on se disait qu'on allait attendre Splatoon pour avoir le nouveau coup de boost pour la Switch après Mario Kart.
Oui, on a sous-estimé un petit peu
Arms. Mais je pense qu'on sous-estime Arms et la hype qui peut naître autour de ce jeu.
Ça, c'est la même patte graphique, je trouve, Splatoon et ça.
Oui, c'est un peu le côté cartoon très coloré.
Ouais, c'est beau.
Un petit peu, ouais.
Ah, c'est beau.
Bon, voilà, en tout cas, Arms, sympa, en tout cas. Il va peut-être faire bouger un petit peu la rédac quand il va arriver.
Il paraît qu'on se marre avec Arms.
Ouais.
Il est en train de réfléchir à des.
Non, attends, pas du tout.
Il y a un jeu de mots là.
Non, je sais même pas ce qu'il nous sort.
Ah, putain, c'est les mêmes lettres quoi.
Voilà. Bah, si, il y a qu'un qui a suivi ici. Ça, c'est pas mal, c'est déjà pas le niveau Resident Evil, celui d'avant.
Ah bon?
Ouais.
D'accord.
C'est trop tard, on l'a vu.
Bon, on va passer au thème numéro 3 de la semaine, messieurs.
Attends, il t'a pas dit quand il sortait Arms?
Si, je l'ai dit à l'instant.
Il l'a dit 3 fois, je crois.
Je l'ai dit au moins 3 fois.
Bah, tu peux le dire une 4ème fois pour moi?
Non.
Eh merde. Tiens, elle boit du thé.
Oui, elle boit ton âme en fait.
D'accord.
Thème numéro 3, Julo.
Julien Hubert.
Julien Philippe Hubert.
On parle Farpoint, de Farpoint, ouais, qui est le
Farpoint, ou pas
le gros test de la semaine. De la semaine, ouais, tout à fait.
C'est le test du siècle, je dirais.
Alors, je l'ai anglé d'une façon, je veux dire, attendue. Hein,
façon voilà, virtuelle.
C'est-à-dire que le PlayStation VR est disponible maintenant depuis 6-7 mois.
Ouais. Absolument, depuis le 13 octobre.
On a
2016.
Eu un gros coup de cœur, évidemment, pour Resident Evil 7 il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Parce que c'est un jeu qui est jouable 100% du début à la fin en VR et que ça faisait du bien de jouer à ce qu'on dit un petit peu avec mépris, j'ai envie de dire, pour le reste du line-up.
Un vrai jeu, entre guillemets.
Un vrai jeu, entre guillemets.
A real game.
Un vrai gros jeu, voilà. Et en l'occurrence, c'en est un, voilà, c'est un FPS, c'est un vrai FPS, hein, c'est un shooter.
C'est pas un rail shooter cette fois.
C'est pas un rail shooter, effectivement. Tu te déplaces, c'est ce qui fait la spécificité de ce jeu. Et tu te déplaces pas, comme dans beaucoup de jeux VR, en te téléportant, tu sais, d'un point à un autre. Mm-hmm. Comme voilà, c'était une espèce de tendance pour éviter d'être malade, etc. Là, en l'occurrence, bah, tu te déplaces avec le stick gauche de ta manette, si tu joues à la manette. Mais il est vraiment très recommandé de ne pas jouer avec la manette, mais de jouer avec ça.
Avec oui. Le fusil.
Le fusil qui est vendu en pack avec, qui s'appelle le M-Controller, et qui permet de jouer vraiment dans les meilleures conditions à Farpoint, parce que non seulement ce jeu a été développé dès le départ, dès la première seconde de développement pour la réalité virtuelle, mais dès la première seconde de développement, il a été développé aussi pour être joué avec ça.
Dès la première seconde.
C'est-à-dire que si tu n'utilises pas ça, tu perds honnêtement 70% de l'intérêt de jouer à ce jeu. J'exagère à peine. Voilà. En l'occurrence, c'est un accessoire. Bah, on peut parler de l'accessoire vite fait, qui est très réussi. D'abord, il est léger. Il est classe.
Il tient bien en main.
Il tient très bien en main et il simule parfaitement le gun que tu vas avoir après dans le jeu. C'est-à-dire que bon, tu vois pas ce que t'as réellement dans les mains, tu vois ce que tu vois à travers l'écran du PlayStation VR.
T'as pas mal,
et c'est vraiment exactement. T'as l'impression de tenir vraiment le flingue que tu vois dans le jeu.
Et il faut préciser un petit truc parce que je faisais partie des gens à m'être trompé à ce sujet. Le PlayStation Move est incorporé au truc. Hein. On n'avait pas besoin d'acheter de Move et de l'incruster dans l'embout du fusil.
C'est mais si vous avez le
vous
fusil
avez besoin que de cette pièce là.
Le fusil rouge là qu'on a aussi à la rédac qui était disponible.
Ça marche pas, je crois pas.
Si, il me semble que tu peux mettre ton PS Move dedans.
Oui, mais c'est pas compatible avec Farpoint.
Bon, bon.
Parce qu'en fait cette manette a l'avantage de reprendre absolument tous les boutons. Et sur le fameux fusil 4. Rouge, tu n'as pas les deux sticks par exemple, je crois pas.
Bah si tu mets le tu peux mettre l'autre truc PS Move, celui qui a le stick
oui,
dessus.
Oui, mais ce truc là, je ne sais pas si c'est compatible avec la PS4
Il est
pas sorti pour la PS4 en tout cas.
Bon,
enfin bref.
Regardera.
Dans tous les cas, vraiment on vous recommande si vous comptez jouer à Farpoint parce que vous avez un PlayStation VR et on va y venir, mais si vous avez un PlayStation VR, pour moi c'est indispensable d'y jouer.
Vous êtes deux.
Il faut vraiment le faire avec cet accessoire. Donc il est vendu jeu plus accessoire 90€. Sur certains sites, on va pas se mentir, vous pouvez le trouver quasiment à 70-80€. Donc
ça fait un peu cher
avec une petite réduc.
Le jeu est gratuit si vous achetez le PSVR.
Ah oui, bon mais en même temps,
bah, toujours ça. Hein.
Et tu peux pas acheter de gun tout seul, je crois pas, oui. pour l'instant. Donc, ça serait un peu con de faire ça à la limite. Le jeu coûte 50 euros tout seul, sinon. Donc voilà, ça fait le, ça fait l'accessoire à 40 euros ou 30 si vous trouvez un bon deal sur sur le net. Donc voilà, super accessoire qui permet vraiment de d'y être d'y être à donf quoi, vraiment quoi. Donc comme je disais, tu te téléportes pas, tu te déplaces vraiment avec le stick gauche. Mmh. En revanche, le stick droit ne sert pas.
Ah,
pas de base. Il n'est pas réglé pour servir de base. Sachant que voilà, c'est un FPS très linéaire. T'es dans des niveaux qui sont pas très larges. T'es dans des niveaux qui sont un peu comme sur des rails. Et tout est fait, même dans les patterns des ennemis, pour qu'ils t'attaquent pas vraiment par derrière en fait. Ils repassent devant toi avant de t'attaquer.
Donc, ah, au moins ils sont polis.
Voilà, ils sont polis.
Ah,
le meilleur truc à faire, c'est donc d'y jouer avec donc le aim controller. Et surtout d'y jouer debout. Parce qu'effectivement, tu peux y jouer assis.
Pour bien
mais quand t'es debout, t'as quand même une amplitude plus importante pour vraiment regarder, on va dire, un peu plus qu'à 480 degrés.
Tu ou peux... alors un fauteuil à roulette avec
pas à 360,
le dossier qui tourne.
T'es pas à 360, parce que si tu te retournes complètement, tu caches la boule de ton flingue. À ce moment-là, la caméra le voit plus. Mmh. Donc il y a une espèce de zone de confort qui est quand même assez large. Si tu joues assis, à ce moment-là, tu vas peut-être vouloir activer le deuxième stick. Celui qui te sert à bouger... en plus des mouvements que tu peux faire avec la tête, de bouger ton personnage à gauche et à droite.
C'est pour ça que j'avais des nausées quand j'ai joué.
Mais comme vous le savez,
debout,
voilà,
avec ce bouton.
Exactement. Comme vous le savez, ça, c'est un des trucs qui peut donner vraiment la nausée.
Ah oui,
ça, dans les jeux VR.
Ah, je vous le dis,
c'est quand on utilise un axe de rotation au stick en plus de l'axe de rotation que tu as déjà sur la tête.
Bah oui.
Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir,
ton corps, c'est pas
tu vas pouvoir déplacer ton regard dans une direction alors que tu déplaces ton corps dans l'autre.
Voilà,
bref, c'est des genres de trucs qui fout la gerbe. Donc je vous recommande de rester sur les réglages de base.
Mais déjà, est-ce que tu recommandes le jeu maintenant?
Alors je vous recommande ce jeu, pourquoi? Parce que c'est une grande réussite en termes déjà d'immersion et de qualité en fait de reconnaissance de mouvement,
de précision
et de précision au gun, c'est vraiment génial.
C'est super plaisant.
Il y a un truc qui est vraiment mortel, c'est que en fait, à part le fusil à pompe, qui est évidemment un fusil qui ratisse large, comme on dit, les autres fusils sont de près évidemment. Et les autres fusils ont des lunettes de visée. Et ce qui est génial, c'est que tu t'en rends pas trop compte au départ, et puis tu finis vite par t'en rendre compte, parce qu'il faut quand même du skill pour avancer dans le jeu. Et ben en fait, tu dois vraiment porter le flingue près de ton œil, comme tu le ferais en vrai avec un vrai flingue, et fermer un de tes deux yeux pour mettre vraiment ton œil dans le truc et véritablement viser.
Tiens donc.
Sinon, ça fonctionne pas.
Mais c'est ce que nous avaient dit les développeurs quand on allait jouer avec Romain.
Et c'est
dit,
assez génial.
Ils visent bien dans le truc.
Mais niveau immersion, c'est le top du top.
Ça c'est vraiment cool.
C'est Starship Troopers version.
C'est un peu un mélange. Alors voilà, c'est ça. Le jeu mélange un peu deux ambiances. Starship Troopers et Interstellar. Hein. Vous avez forcément vu ces deux films, je pense.
Donc tu déplaces des bouquins tout en désinguant des araignées, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est que en fait, le côté Starship Troopers, parce que t'es sur une planète sur laquelle tu vas être confronté à des
monstres, aliens,
arachnides, vraiment, des petits, des grands, des très grands.
Et Interstellar parce que tu crois
et Interstellar pourquoi? Parce que toi t'es un astronaute en fait qui est passé par un trou de verre.
Exactement.
Et qui arrive sur une planète. En fait, au départ, t'es juste un pilote de vaisseau et tu dois aller chercher deux scientifiques qui travaillent sur une base spatiale à côté d'une source d'énergie qui semble infinie et qui sont en train d'étudier. Et au moment où tu arrives pour aller les choper, ils vont revenir sur Terre, ils sont contents de retrouver leur mari, leur femme, etc. Il y a un trou de verre qui apparaît et tout le monde est aspiré là-dedans. Eux, les deux scientifiques sont aspirés, leur station est aspirée et toi dans ton vaisseau t'es aspiré. Simplement, toi t'es aspiré quelques secondes après et tu te rends compte en arrivant sur cette planète que t'es dans un espace-temps totalement différent, comme si eux étaient arrivés depuis 30 piges et que toi tu venais d'arriver. Donc c'est assez étrange et t'as un truc comme ça avec, bon je vous parle pas, je vous en dis pas plus, c'est limite un petit peu spoilé déjà que de vous dire ça, mais voilà, il y a un développement scénaristique qui se fait en fait par le biais de tu scannes avec ton fusil des souvenirs en fait des deux scientifiques dont t'as perdu la trace et il faut absolument que tu les retrouves pour t'enfuir de là. Et il y a vraiment un côté Interstellar pour cette raison là et pour d'autres raisons que je vous cacherai.
Et est-ce
là
qu'à
maintenant.
La fin tu te retrouves devant la Statue de la Liberté qui est enfouie dans le sable et tu fais mais qu'est-ce que vous avez fait?
Non, alors je peux vous dire que la fin par contre est assez décevante. Moi j'ai trouvé assez naze la fin.
C'est vrai. Quand t'es naze.
Le dernier quart d'heure est pas mal, mais la fin est vraiment décevante, je trouve. Bref.
Il y a quand même quelques heures de jeu.
En termes d'immersion, c'est vachement bien, mais aussi en termes de gameplay. C'est-à-dire que c'est un vrai putain de shooter, cool à jouer, hyper précis. Ils arrivent à. Il y a un rythme un peu effréné, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contemplation, c'est beaucoup de séquences d'action les unes après les autres. Mais t'as notamment un boss qui apparaît à un moment donné, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, qui est gigantesque, qui donne pas mal de fil à retordre. Plus t'avances, plus il faut vraiment que tu gères. Tu peux porter deux flingues à la fois, mais ils ont vraiment tous des fonctionnalités différentes qui font que selon le type d'ennemi, il faut que tu puisses utiliser un flingue ou l'autre. Tu t'en rends compte petit à petit, donc ton skill grandit, la difficulté augmente, et t'arrives finalement à non seulement prendre ton pied pour le côté immersif, mais aussi pour le côté gameplay, parce que c'est jouissif.
D'accord.
Tu progresses vraiment. Il y a un mode défi une fois que t'as fini le jeu qui te permet de prolonger le plaisir, vraiment, avec des leaderboards en ligne, etc., pour faire des concours de beat en ligne. T'as un mode coop aussi, où tu vas être rejoint par un autre joueur, et à deux vous allez liquider des niveaux entiers comme ça, avec un principe de infiltration et extraction.
Moi j'ai une question très importante.
Ouais.
C'est ok, ça a l'air de bien fonctionner en VR, mais si le jeu était pas en réalité virtuelle, est-ce que ce serait aussi intéressant?
C'est là qu'on en arrive, j'étais dans thèse, on va dans antithèse maintenant, avant de faire la synthèse, mais en gros le problème du jeu c'est ça, c'est-à-dire que oui c'est un jeu VR, donc on peut pas lui enlever d'être un jeu VR, il a même été développé pour ça, etc. Malgré tout, c'est tellement réussi, je veux dire, fondamentalement dans les mécaniques, etc., que tu ne peux que voir à un moment donné que c'est quand même hyper basique. Alors je vous disais tout à l'heure déjà, première chose, les niveaux sont étroits, c'est toujours du tout droit, il n'y a pas vraiment de séquence, il n'y a pas de séquence où tu pilotes des véhicules, il n'y a pas de puzzle, il n'y a pas de variété. Si bien qu'à un moment, malgré le kiff d'être en VR et que ça fonctionne bien, honnêtement il y a des moments où c'est un peu ennuyeux, c'est un peu chier.
Est-ce que la jeunesse de la réalité virtuelle impose pas justement d'avoir ce genre de choses pour
Disons que c'est un pionnier, c'est le premier qui arrive à faire quelque chose d'aussi réussi à ce stade.
C'est pour ça que c'est la première fois que c'est un vrai jeu.
C'est pour ça que c'est un indispensable. C'est qu'au même titre que Resident Evil ou un autre jeu comme Robinson The Journey, c'est un jeu complet, long, Poufy a été très très vite pour le finir, il l'a fait juste après moi. Il m'a dit qu'il l'avait fini en 5 heures, mais je ne le crois absolument pas.
Vu la migraine au Salmi qui s'est payée le lendemain, à mon avis, si c'est possible.
Non, moi j'ai l'impression d'avoir mis 6-8 heures facile. Moi je suis un joueur contemplatif
et contemporain.
Et sur la deuxième moitié, voire le dernier quart surtout du jeu, ça devient très difficile, honnêtement. Je suis beaucoup plus mort, évidemment, à ce moment-là. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une durée de vie conséquente, d'autant plus qu'il y a un vrai mode défi, un vrai mode coop en ligne qui fonctionne bien aussi. Bref. C'est un jeu vraiment complet, qui a plein de qualités, etc. Mais dans le fond, effectivement, tu l'enlèves cette dimension VR, ça devient un FPS qu'on aurait oublié immédiatement après y avoir joué. Et je sais même pas si on aurait été au bout, on s'aurait dit bon, il a rien de spécial ce jeu, on n'en aurait pas parlé, quoi, véritablement.
Alors que là, il devient le fer de lance du PlayStation VR.
Et là, c'est le fer de lance du PlayStation VR. Donc on sent bien, en fait, que les développeurs en ont sous le pied. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, vraiment, avec des choses simples. Il y a d'ailleurs des véhicules dans le jeu, à un moment donné, que t'as trop envie de piloter, bah, tu te dis c'est pas possible, ils vont mettre dans un truc comme
c'est pour pouvoir faire la suite. C'est pour pouvoir faire la suite. Voilà. Et regarder ce qu'on
ajoute. Je pense que quand il y aura une suite, ils ont tellement de bonnes bases qu'ils vont pouvoir enfin faire un grand jeu, un vrai grand jeu, c'est-à-dire un jeu qui serait même intéressant s'il n'était pas en VR, quoi. En tout cas, beaucoup plus que là. C'est un peu pour ça que ça pêche un peu. C'est-à-dire, il y a un moment où tu le ressens et où ça te fait un peu chier qu'il n'y ait pas un peu plus de variété, un peu plus de choses pour te sortir d'une routine, en fait. C'est une vraie routine du début à la fin, quand même, malgré le fait qu'on peut pas dire vraiment qu'on s'ennuie, parce que c'est tellement kiffant à jouer qu'on passe outre, quoi.
Et ça permet justement aussi peut-être de briser un peu la routine aussi du PlayStation VR, qui est pas extrêmement, enfin, de ce qu'on a l'impression de voir en prenant un petit peu de recul, il n'est pas extrêmement fourni en expérience inoubliable.
Je suis pas d'accord, moi, avec ça. Je trouve quand même que quand on fait le point, le PlayStation VR, contrairement au Vive ou à l'Oculus, qui sont peut-être plus perfectionnés, etc., et qui ont plus de catalogues,
ouais.
Tu t'y retrouves pas trop sur Valve. Il y a des super expériences, etc. Évidemment, c'est le hardware il fonctionne mille fois mieux et tout. Mais le côté console permet d'avoir des sorties claires de jeux finis, etc., alors que tout est plus ou moins soit en early access, soit c'est une toute petite expérience, soit c'est un jeu complet, mais il n'y a que le premier niveau pour l'instant, etc. Là, je trouve qu'avec le PlayStation VR, on se fout pas de nous quand même, parce que t'as, bon, alors, pour moi le vrai problème de cet accessoire, c'est quand même le prix. Tant que le prix sera pas baissé, tant que technologiquement ça sera pas un peu amélioré et qu'il y aura plus ces problèmes de nausées, ça pourra pas véritablement être un truc grand public pour moi. Mais bon, ça viendra peut-être.
Voilà, c'est pour ça aussi, il y a des gens qui s'amusent, on dirait que ça leur fait plaisir. Ils disent, la réalité virtuelle, ça fait pchit, c'est pas le gros carton.
Plus de 2 milliards de chiffre d'affaires.
C'est pas le gros carton.
Quasiment un million de PlayStation VR. Pas...
Oui, non, mais vous les avez vus comme moi, ces commentaires de gens qui se félicitent.
Mais, en même temps,
mais le truc, c'est que t'es obligé pour lancer une technologie.
Oui, pareil, c'est la nouvelle 3D des télévisions, du cinéma.
Pour une technologie comme ça, il faut bien commencer quelque part. Bah. Les trucs innovants comme ça sortent jamais à un prix tout de suite
bien
hyper
sûr.
Bon marché, etc. Donc il fallait
qu'il y ait
un emballement. Et je trouve que ça marche déjà très bien.
Moi, je soutiens pas cette théorie qui dit que la VR se plante. C'est fini, machin,
non,
évidemment pour moi c'est tout le contraire. Par contre, je pense que ce que veulent souligner tous les gens qui te disent ça, c'est qu'il y a eu un tel enthousiasme en fait avant que ça sorte, ouais. Au moment du lancement, etc., où tout le monde disait on se souvient, nous sur Gameblog, t'avais l'apôtre de la VR qui est plus avec nous aujourd'hui, c'est Julien. Et autant il avait raison sur plein de trucs, autant sur le côté ça va démarrer vite, c'était moins évident. Mais ce que je veux dire, c'est que là pour l'instant, c'est effectivement, t'as raison Romain, c'est les balbutiements. Et pour des balbutiements, je trouve que là par exemple avec un jeu comme Farpoint, justement, on est en train de franchir la première petite étape. Parce que la vraie grosse étape pour moi, c'est un problème hardware. Faut que ce soit plus petit, moins cher, que ça donne moins la nausée, plus facile à,
ouais, qu'il y ait plus de fil aussi,
plus facile à brancher, etc. Voilà.
Le jour où il y aura la VR sans fil, vraiment vraiment accessible.
Mais de toute façon, ils avaient dit que c'était présenté comme étant un produit quand même pour les early adopters.
Bien sûr.
Au début.
Et on s'est vachement emballé par rapport à la révolution que ça représenterait immédiatement.
Moi, je trouve que la révolution,
c'est une révolution qui reste à démocratiser. À démocratiser, voilà.
Parce que tu regardes, tu parles des gens qui s'amusent à comparer ça avec la 3D. Sauf que j'ai vu des films
3D au cinéma.
Oui, voilà. J'ai vu des films en 3D au cinéma avec un nombre quand même conséquent de personnes. Et je suis jamais sorti d'une séance avec quelqu'un qui m'a dit, waouh, la 3D là, c'était dingo, ça va tout changer, etc. Alors que toutes les personnes à qui, y compris les non-joueurs, à qui j'ai fait essayer la VR, tout le monde était sur le derche, tout le monde a trouvé ça génial.
Personne ne l'achète derrière, forcément.
Mais ouais. Voilà, mais là c'est encore le problème du prix. Mais en tout cas, la technologie est là, elle fonctionne bien, les effets sont saisissants.
L'intérêt est très sympa.
C'est juste,
hein,
voilà, il faut juste que maintenant, mais c'est normal, c'est comme ça avec tous les trucs, les nouveaux trucs
comme
de technologie.
Comme tu dis, il faut bien le lancer à un moment donné.
Mais c'est comme la télé au début. La télé, il y avait une personne dans un village qui l'avait, il y avait tous les gens du village qui venaient la regarder.
On sent le Romain qui a des origines picardes, qui sait.
Voilà, on m'a raconté des choses.
Voilà. Des choses un jour.
On m'a raconté des choses. Non, mais ce que je veux dire, la VR, ça va être pareil. Il faut juste que les constructeurs s'accrochent.
Ouais.
Faut qu'ils jettent pas l'éponge tout de suite.
Oui, mais justement,
le problème, c'est qu'ils doivent faire du pognon.
Oui,
pour que ça,
il faut qu'ils s'y retrouvent aussi, les mecs. S'ils font pas de pognon, ils vont pas continuer.
Et
hein.
C'est ça, les articles que tu vois tomber les uns après les autres, qui disent que la VR c'est un échec.
Oui,
c'est parce que il faut quand même qu'il y ait un truc qui amorce la machine, quoi. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Mais cela dit, Sony, je trouve que quelque part, c'est un peu ceux qui s'en sortent le mieux, même si ils en parlent moins maintenant que pendant la période de lancement, ce qui paraît être une évidence quand même. Mais là, regarde, on en entend parler avec la sortie de Farpoint, et puis on verra l'E3, le nombre de projets VR, si ça a disparu.
Déjà, Oculus sera pas à l'E3, donc il n'y a pas de stand.
Oculus, ils ont disparu.
Non, mais Facebook revient un petit peu aussi sur son engouement du départ, peut-être aussi sur Oculus, etc. Enfin, il faut quand même que ça fasse du blé, sinon ça pourra pas continuer, quoi.
Et puis les développeurs, ils vont pas venir dessus, donc s'il n'y a pas de jeu,
après tu vois, il y a aussi d'autres utilisations hors de la sphère purement gaming.
Oui,
qui...
ça, ça existe depuis longtemps.
Et ça, c'est la grande question.
Non, parce que tu vois,
y a on s'est dit, est-ce que c'est le gaming qui va driver le truc ou est-ce que ça va être un autre
domaine? Parce qu'il y a de plus en plus de studios de cinéma, par exemple, qui proposent des expériences pour faire la promo de leurs films.
Exactement.
On sait qu'Ubi a fait une expérience Assassin's Creed pour la sortie du film.
Absolument.
Alien, il y a eu une expérience aussi. Ouais. La Resident Evil Vendetta.
John Wick aussi.
Resident Evil Vendetta, qui est le film en image de synthèse, va avoir une expérience gratuite sur le PlayStation VR. Power Rangers aussi, il y a eu des trucs, et je sais qu'ils installent aux États-Unis dans certaines salles de cinéma des spots VR justement pour que les gens puissent essayer ces expériences. Après, il y a des applications hors du divertissement aussi
il peut y avoir des applications médicales, des applications
ça existe déjà, ça,
purement pour les voyages, ça y est, j'arrive plus à trouver mes mots, enfin il y a plein de possibilités faire
en fait j'arrive pas bien à comprendre. Alors après oui, le côté financier il est évident, mais en fait j'arrive pas bien à comprendre les gens.
C'est un business, hein, quand même.
Oui,
c'est une industrie, hein,
c'est sûr. Mais j'arrive pas bien à comprendre les gens qui semblent se réjouir
d'une
mort potentielle de la réalité virtuelle. C'est tellement bien que si ça vous plaît pas, n'utilisez pas. Mais je comprends pas bien les gens que ça amuserait juste pour pouvoir dire ah mais je vous l'avais dit c'est nul, la réalité virtuelle ça marchera jamais, mais alors qu'en fait ça marche, enfin ça techniquement ça marche et c'est tellement bien, enfin je vois pas bien l'intérêt de se réjouir d'un échec potentiel.
Il faut
de
juste
qu'elle baisse
son prix et qu'il n'y ait plus de fil avec le casque. Puis voilà.
Non mais moi ce que je trouve pour en revenir plus au côté ludique de la chose, je trouve que il faut pas que ça reste éternellement prometteur, il faut qu'il y ait des milestones comme on dit, enfin des étapes quoi marquées et que ces étapes ce soient des jeux. On l'a vu avec Resident Evil, je trouve qu'avec Farpoint là il y a quand même une équipe de développeurs, ils sont 14 les mecs qui ont fait ça, hein. C'est franchement chapeau les gars,
chapeau pointu,
c'est une équipe à San Francisco qui veut faire, dont l'objectif est de faire des gros jeux entre guillemets, des jeux pas forcément triple A mais des vrais jeux quoi, plutôt que des expériences.
Mais
en
ça
VR.
Peut passer par les expériences aussi de
non mais les expériences on en a
eu
plein et
des géniaux,
mais maintenant il faut que l'essai soit transformé par des jeux qui ludiquement nous plaisent beaucoup, fassent avancer le schmilblick et marquent des étapes, et je trouve que Resident Evil a marqué une étape, Farpoint en marque une dans un autre genre, celui du FPS. Il a montré la voie à tout un tas de gens qui maintenant peuvent développer des FPS en s'inspirant un peu de ce qui a été fait là, quoi. C'est-à-dire en proposant quelque chose qui fonctionne, quoi, sans téléportation pour le déplacement, avec un vrai déplacement qui fait pas mal au cœur, parce que moi, par exemple, j'ai pas eu un seul haut le cœur de tout le jeu.
On en a eu quelques-uns ici.
Je sais que
ici,
certains d'entre vous en ont eu, c'est pour ça que j'ai mis l'indice de gerboulade au milieu. Moi, j'en ai eu zéro, et pourtant, tu te déplaces. Tu te téléportes pas, tu te déplaces. Donc voilà, ils ont trouvé quelque part le début d'une formule qui fonctionne vraiment super bien. Donc maintenant, aux développeurs de nous étonner justement en allant plus loin. C'est pour ça que je l'ai mis que entre guillemets 7. 7, ça veut dire que c'est bon. Et pour autant, un indispensable.
Si vous avez un PlayStation VR, il faut le faire.
Quand t'as un PlayStation VR, c'est impossible de pas jouer.
Si t'en as pas, tu peux pas le faire. Donc.
Oui, c'est vrai.
Par contre, c'est pas forcément pour les qualités de ce FPS que tu vas vouloir acheter
un PlayStation VR.
Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est un peu pour l'ensemble des choses, parce que t'es un geek, un technophile, t'as un PlayStation VR.
Et un bourgeois.
Voilà, il faut y jouer. Mais il y aura beaucoup mieux, je pense, très vite si d'autres développeurs s'inspirent de ça pour créer d'autres FPS qui seront plus surprenants, plus variés, etc.
Romain, moi j'y ai joué beaucoup moins longtemps que Julo. J'avais fait une présentation avec Traz qui durait quelques dizaines de minutes, mais autant j'ai fait quand même un certain nombre de FPS traditionnels sur console, que là les sensations que Farpoint m'a procurées étaient totalement différentes, et
c'est
c'était
unique,
une et c'était comment dire très intuitif, mais intuitif au sens réaliste. Par exemple, quand on m'a mis le fusil dans les mains,
t'es dedans, vraiment,
tout de suite, ça, j'ai eu le réflexe de le porter près de ma tête, près de mes yeux, pour pouvoir viser dans le...
Pour te défendre.
Il y a d'autres jeux qui vont être rendus compatibles avec le flingue. Il y a d'autres jeux à venir qui vont l'utiliser aussi.
Oui, faut espérer,
même hors réalité virtuelle, c'est pour être utilisé pour les FPS. C'est vachement agréable, hyper intuitif et vraiment cool d'utiliser cet accessoire pour tout un tas de jeux.
Je pense que des gens qui ne jouent pas ou très rarement au FPS pourrait tirer une satisfaction de jouer à Farpoint
en
VR.
Pour l'immersion.
Les sensations, elles sont vraiment saisissantes et différentes.
D'accord. Voilà. Disponible sur le PlayStation VR, ça y est.
Ah oui, c'est disponible.
C'est disponible.
À 70 000 euros.
Donc 90 euros prix public, conseiller. Quoi, conseiller vous pouvez le trouver moins cher avec le gun.
Non, avec le gun,
50 euros sans le gun.
D'accord. On voit bien, pour une toute petite dernière chose, on voit bien que la technologie de la VR évolue déjà. Quand on sait que Microsoft, il y a toutes les gammes de casques qui ont été annoncées en partenariat avec différents constructeurs, les capteurs sont maintenant inclus dans le casque même. Donc déjà ça c'est un point fort par rapport au HTC Vive qui nécessitait de placer des capteurs,
dans la pièce, de la pièce
ou le PlayStation VR qui demande de mettre la PlayStation caméra devant toi. Donc déjà c'est un gros
truc en plus énorme,
Et Kazirai avait déclaré que ça fait quelques mois donc je me rappelle plus des déclarations exactes, mais il avait laissé entendre qu'une nouvelle version du PlayStation VR
c'est une évidence,
ils vont lâcher le premium. Donc à partir du moment où ils vont réussir à libérer des contraintes comme les câbles par exemple ou la caméra et réussir à baisser le prix, là ils ont tout à y gagner. Voilà.
Bah nous on a tout à gagner à continuer ce podcast dans une autre direction. Merci Julo pour ce petit troisième thème sur Farpoint. On va passer maintenant, Julo, encore avec toi. Eh bien, au petit récap des tests de la semaine.
Il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu Opération Bubble New Tokyo Legacy, un jeu à la Johnny One.
Ah, et c'est pas celui qui a testé, non?
Il a eu 6, donc voilà, mais c'est un test sur PlayStation Vita, donc c'est intéressant. Voilà.
D'accord,
c'est
toujours rigolo d'en parler.
Non, mais voilà, un jeu pour les otaku. Mm-hmm. Fire Emblem Echoes que Yann a testé sur.
Qu'un remake de Fire Emblem Gaiden.
D'un Fire Emblem un peu spécial, un épisode. C'est pas un gameplay habituel désormais tu utilises même le stick droit pour contrôler la caméra, etc. C'est vraiment pas pareil. Allez voir le test si ça vous intéresse, ça s'appelle Fire Emblem Echoes.
Attends, laisse-moi deviner,
et le jeu est 8. Exactement. Et Loco Roco Remastered
10 sur 10.
Thomas est occupé, il a mis 7, voilà, ça reste
Thomas t'as été sévère,
ça mérite 10, un petit peu sévère peut-être, mais bon, c'est un remaster qui n'apporte pas forcément quelque chose,
mais c'est Loco Roco.
Si ce n'est que ça permet à des tas de gens qui l'ont pas connu peut-être à l'époque d'y jouer aujourd'hui sur PS4. Voilà
exactement, excellent jeu PSP aujourd'hui sur PS4, Loco Roco Remastered. On va faire un petit peu d'actu en vrac avant de se quitter, messieurs. On va parler déjà de Sega qui a annoncé vouloir ressusciter des licences majeures, mon cher Romain.
Mais pas tout de suite.
Eh bien oui, dans le dernier rapport, tu as raison, c'est ça. Dans son dernier rapport financier, Sega évoque ses perspectives pour les années à venir et une réorganisation de ses studios et de répartition des ressources, etc. Et parmi les choses que Sega veut faire, ils veulent créer des hits mondiaux. Enfin des hits d'envergure mondiale. Et pour y parvenir, un des éléments envisagés, c'est la résurrection de ces anciennes licences.
Est-ce que tu penses que Shenmue HD est compris dans le tas?
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut parler d'une résurrection? Est-ce qu'on peut toujours parler d'une résurrection à partir du moment où Shenmue 3 est en développement?
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça, je sais pas.
Ah, mais c'est vrai.
Enfin, Shenmue, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais Sega dort sur un catalogue de licences qui est conséquent.
Bah justement, il le sait.
Et donc, il compte utiliser ses licences pour essayer d'augmenter sa street cred dont on parlait tout à l'heure et d'augmenter ses résultats. Et ce qui est amusant aussi, c'est que maintenant, avant, Sega avait des studios, par exemple, un studio qui est axé sur le jeu mobile, un studio qui est axé sur ci, un studio qui est axé sur là. Et maintenant, en fait, ils veulent consacrer des studios aux licences. Un petit peu peut-être comme Microsoft fait, ils ont un studio pour Halo, ils ont un studio pour Gears of War, etc. Et là, d'après les papiers de Sega, ils semblent vouloir faire un peu la même chose avec leurs licences, de manière à pouvoir proposer, par exemple, des sorties mondiales sur leurs jeux. On sait, par exemple, que Yakuza... Bon, c'est pour d'autres raisons, mais entre la sortie japonaise et la sortie occidentale, il y a toujours plusieurs années. Ouais. Ouais. Alors là, ils veulent s'éloigner de ces choses-là. Ils disent aussi qu'ils veulent s'associer à d'autres sociétés pour utiliser leurs licences. Ils ont récemment annoncé un partenariat avec la WWE, par exemple, pour créer un jeu de catch sur mobile. Et donc, Sega change en fait. Ils sont en train de totalement revoir leur.
Est-ce qu'ils changent bien? Ça sera une autre question.
Ça, il est beaucoup trop tôt pour le.
Ça fait du bien
dire.
Qu'il y ait un peu de remous quoi du côté de Sega quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils s'étaient donc totalement éteints comme on sait. Ils sont mis sur le business PC mobile, etc.
Ah bah ça, ils continuent aussi bien sur sûr. PC. Hein. Dans les documents, c'est marqué que.
Mais ils vont même renforcer ça.
Voilà, ils veulent renforcer le PC.
Mais ils ont raison, ils cartonnent dessus.
Ils ont des sacrés studios avec eux.
Il y a vraiment un marché sur PC pour eux et donc ils veulent aller dans ce sens-là. Ils ont aussi dit qu'ils voulaient, enfin, ils s'attendaient à vendre plus de jeux en boîte au cours des mois et des années à venir. Donc...
Ils veulent rénover leur image aussi, rebooter un peu leur.
Alors, je
ne
sais pas
image.
Si ça faisait partie des autres points qui étaient dans la liste.
Je pense que tu peux l'aborder maintenant. Moi, vite fait.
Amazing Sega, c'est la nouvelle image, le nouveau slogan de la société, au moins au Japon, mais apparemment, ça va être utilisé à l'international. Ils veulent proposer aux joueurs plus de surprises qu'ils ne l'ont fait par le passé. Ils ont totalement un nouveau branding, comme on dit, tu sais. Avant c'était Sega, après il y a eu le Sega pendant les jeux,
le
aux États-Unis
dans
les pubs il y avait le Sega Scream, en France on avait le Sega c'est plus fort que toi, et bah désormais c'est un œil. C'est un œil qu'on voit en gros plan avec le logo Sega qui défile dessus. Donc c'est ça qui ponctuera les publicités, certainement peut-être les intros de jeux. Et apparemment, ils ont créé en interne un système de caméra qui filme de très près les yeux des joueurs pendant qu'ils viennent tester les jeux Sega chez eux.
Ils font une banque,
et en fait, ils peuvent calculer les réactions des yeux des gens
pour
des joueurs,
les contrôler,
pour voir ce qui se passe, ce qui les fait réagir quand ils jouent à leur jeu et tout. Enfin bref, il y a vraiment un nouvel élan
chez Sega.
Un nouvel élan qui se fait chez Sega, et j'espère que ça va mener à de belles choses.
Quand tu dis Amazing Sega, ça me fait immédiatement penser à Franck Sébastien, évidemment.
Exactement.
Qui travaille chez Sega.
Exactement.
C'est totalement lui. Amazing
et
Sega.
Au passage d'ailleurs.
Ouais. Autre actu en vrac de la semaine, c'est l'association annoncée de deux légendes du jeu musical, à savoir Keiichi Anno et Masaya Matsura. À eux deux, c'est Guitar Woman, Wendan, si vous connaissez pas Wendan, son nom européen,
Elite Beat Agents.
Exactement. C'est aussi Parappa the Rapper, évidemment, Vibribone. Voilà, je n'avais plus à retrouver le nom. Et ces deux messieurs, ils se sont associés tout bêtement.
Fusion.
Exactement, pour faire le jeu de rythme ultime, Project Rap Rabbit, qui est donc un jeu avec encore un scénar complètement con où on va incarner un lapin dans un Japon médiéval 16e siècle, alternatif, futuriste, on sait pas trop, dans lequel les conflits se règlent à coups de battle de rap. Donc c'est encore une fois, ça a l'air complètement débile. L'esthétique en tout cas est plutôt rigolote. C'est un jeu qui va passer par Kickstarter, et il y a eu une petite polémique parce que dans les paliers Kickstarter il y avait évidemment des choses comme une version Xbox One, mais à partir de 3 millions dollars donnés, et une version Switch à partir de 5 millions, chose qui n'a pas plu forcément à la communauté de joueurs qui l'a signalé, et du coup ils ont changé ça en 24 heures exactement. 1,5 million en palier Kickstarter pour réussir, peut-être un peu plus, 2 millions. C'est 1,5 million pour le jeu complet.
Sinon c'est que PC.
Non, c'est 1,1 million pour le jeu complet.
1,1 million pour le jeu complet, pour l'avoir sur PC et PS4. Et 1,5 million pour la version Switch. Donc voilà,
ils sont passés de 5 millions à 1,5
million. Par contre, le palier 300, Xbox One, on ne sait pas où il est. Les stretch goals n'ont pas été annoncés. Autant on parlait du bon coup de com du MMO Western, que
là
ils ont complètement foiré le lancement de leur Kickstarter.
Il leur manquait quelqu'un pour être derrière. Ça me rappelle un peu d'ailleurs le début de Shenmue 3 sur Kickstarter. Il leur manque quelqu'un derrière pour dire.
Sauf que le lancement de Shenmue sur Kickstarter, il a été, le palier, enfin l'objectif a été atteint en quelques heures.
Il y avait un truc au niveau communication, au niveau des paliers, genre faut payer 4 millions pour avoir la traduction en allemand et en portugais, quoi, tu vois. C'était
là c'est ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit d'abord pour avoir les traductions dans les différentes langues, et le tout dernier palier c'était la version Switch. Alors ils avaient justifié ça en disant c'est parce que le portage du jeu sur Switch, ça nécessite de beaucoup plus de ressources techniques, etc. Ça va être plus compliqué, etc. Moi personnellement, j'avais interprété ça en on voit que la Switch elle cartonne, donc les joueurs réclament beaucoup de jeux sur Switch, donc ils vont casquer pour pouvoir atteindre cette version.
Puis on a vu qu'on était deux grands noms et que quand c'est Koji Igarashi ou Yu Suzuki, ça cartonne immédiatement et on atteint les 5 millions, donc nous ça peut peut-être marcher aussi.
Ouais, mais là ce sont de grands noms du jeu de rythme.
Ouais, et c'est pas
donc, en termes d'envergure populaire, les jeux de rythme c'est pas au niveau d'un jeu de Suzuki.
Exactement ça, mais en attendant, je serai le premier satisfait quand Project Ratrabbit arrivera sur PS4 et PC, en tout cas je l'espère, si le Kickstarter va à son terme. Autre actu de la semaine, encore une fois Romain, j'en reviens vers toi parce que parce que il y a un nouveau jeu de tennis qui a été annoncé.
Romain il m'a dit que ça allait être pourri, donc du coup
n'importe quoi.
Non, t'as dit j'ai pas trop confiance en fait.
Non. Alors, déjà dans un premier temps,
ça va casser net.
Dans un premier temps, moi je sais que je reçois quasiment chaque semaine des tweets de gens qui me demandaient Romain, est-ce que t'as des infos sur un nouveau Top Spin, un nouveau Top Spin, un nouveau Top Spin,
parce qu'il n'y en a pas sur NextGen, c'est ça qu'il
faut. Non, il n'y a pas de jeu de tennis.
Tous les jours, on le déplore.
Ouais, pas de jeu de simu de tennis sur consoles actuelles. Et donc, visiblement, Big Ben a entendu les cris des joueurs.
Parce que
Touquet, visiblement, n'avait aucune intention de mettre en chantier un nouveau Top Spin. Donc, Big Ben s'est dit, bon, bah, je vais faire appel au service d'anciens de l'équipe Top Spin pour créer un nouveau jeu de tennis. Donc c'est un nouveau studio qui s'appelle Breakpoint, donc balle de break en français, composé de membres de l'industrie, dont des anciens développeurs de Top Spin, et qui ont créé pour le compte de Big Ben, qui sont en train de créer
Tennis World Tour
sur console et PC. Ils n'ont pas précisé les consoles concernées, ils ont juste dit console au pluriel. C'est prévu pour 2018 et c'est de la simulation. Le réalisateur du jeu, c'est le producteur de Top Spin 4. Mm-hmm. Ce jeu est présenté comme une suite spirituelle de Top Spin, parce qu'évidemment, ils n'ont pas la licence qui appartient toujours à Touquet. Et ils se veulent suite spirituelle de Top Spin avec un gameplay très exigeant, d'après ce qu'ils disent. Plus de 30 joueurs issus des circuits féminins et masculins. Ils ont déjà parlé de Roger Federer, Gaël Monfils et la numéro 1 actuelle, j'ai oublié son nom, je vais vous dire ça tout de suite, Angelique Kerber, qui est allemande, oui, qui est la numéro 1
elle a gagné l'US Open dernièrement.
Qui vient de se faire éliminer au premier tour du tournoi de Rome, paradoxalement.
Oui, mais c'est interbattu.
Donc là, pas de Kickstarter, hein, c'est bel et bien en développement. C'est prévu pour 2018. Par contre, on sait que ça sera pas présenté à l'E3, mais à la Gamescom. Mm-hmm. Donc faudra attendre ça pour avoir des nouvelles. Après, est-ce que Big Ben a les moyens financiers de faire un jeu d'une ampleur d'un Top Spin comme Touquet pouvait le faire ? C'était juste là mon doute.
D'accord.
Mais j'espère que Big Ben fera un truc très bien.
On l'espère tous. Alors, il y a eu d'autres annonces, évidemment. Il y a eu Assassin's Creed, Far Cry 5 et The Crew 2 qui ont été officialisés aussi.
Oui, sans grande surprise. On en verra plus à l'E3.
Exactement. PES 2018 aussi, avec une petite vidéo et des petites images.
Avec Sébastien Delamide en guest star.
Peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'il va jouer pour la Juve dans le jeu, dans les légendes. Tout est possible en ce moment. On a noté aussi que la Switch continue de carburer dans le monde entier, avec des chiffres assez impressionnants pour le mois d'avril. Notamment pour Mario Kart, hein. Oui, aux States, évidemment. Avec Mario Kart qui s'est vendu, mon cher Romain, à 500 000 exemplaires.
550 000 versions boîte et des maths inclus en 3 jours.
En 3 jours.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il avait fait 459 000 toutes versions confondues, juste le jour de lancement. En fait, ils en ont vendu 100 000 de plus environ pendant le week-end. C'est un gros démarrage.
C'est déjà énorme.
Et la console, 280 000 au mois d'avril, donc numéro 1 des charts aux States pour le mois.
Devant la NES classique.
Devant la NES Mini.
Oui, c'est plus étonnant déjà.
Autre actu de la semaine qui est très brûlante, c'est The Witcher qui va arriver sur Netflix.
Netflixo.
Ça y est, Platige a fait l'annonce. The Witcher aura droit à sa propre série sur Netflix. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, à part que l'auteur des romans, André Sapkowski, est impliqué, et que les réalisateurs de chez Platige, qui s'étaient occupés des cinématiques de chacun des jeux de CD Projekt, sont là aussi. Mais CD Projekt, par contre, eux, ils y sont pas. Et en même temps, c'est normal, eux, ils s'occupent
que tout faire, hein,
du jeu vidéo. On sait aussi, on parlait de Shenmue HD tout à l'heure, que il y a quelqu'un dans l'industrie, c'est pas un insider, cette fois c'est un président de Just Add Water.
C'est le PDG de Just Add Water qui a fait plein de jeux récemment, dont les versions HD des derniers Oddworld.
Ouais.
Qui lui a dit, avant d'essayer de se rétracter, mais bon, que le jeu était bel et bien réel.
Mais ça, on le sait tous.
Je vous avouerai que de sources diverses et variées, c'est acté, le jeu.
C'est acté, signé.
Le jeu existe, Shenmue HD. Par contre,
la vraie
question, c'est de savoir
des années qu'on se le dit, et voilà.
Personne
de plus qui le dit.
Voilà, là, on n'a jamais été aussi près. Là, la seule question, ça va être de savoir quand il est présenté.
Mais juste le 1.
Et là, c'est une zone de doute aussi. On sait pas trop si c'est juste le 1 ou les deux ensemble. Moi, j'aurais tendance à penser que ce sont les deux, mais là encore, pour le coup, j'en sais rien. Mais quand ?
Ouais, quand ? On sait pas. Dernière actu en vrac de la semaine, et c'est peut-être la plus importante, en tout cas pour moi, c'est acté, ça y est, Life is Strange aura droit a une suite.
A une suite spirituelle,
enfin,
ou pas ?
Ouais, c'est une petite vidéo de remerciement aux fans adressée par Raoul Barbet, Michel Koch et Luc Bagadoust, qui sont respectivement producteurs, réalisateurs sur le jeu, dans laquelle ils ont remercié les fans de s'être manifestés nombreux pour acheter le jeu.
3 millions
de ventes pour Life is Strange, qui est vraiment très bien pour,
c'est mérité, d'ailleurs.
Pour un jeu, on va dire, pour une nouvelle licence déjà, et puis pour un jeu qui venait de nulle part.
Surtout qu'ils reviennent de loin, Dontnod.
Oui, ils reviennent de loin après Remember Me qui s'était un peu gaufré. Et ben là, ils ont fait un carton plein. Et dans cette vidéo de remerciement, et ben ils ont annoncé tout bêtement. Et c'est Luc à droite de cette vidéo qui l'annonce qu'il travaille effectivement depuis la sortie de la version physique sur un nouveau jeu Life is Strange. Je vous cache pas que là je suis au téléphone à peu près 24/24 pour essayer de les harceler, pour essayer d'en savoir un peu plus. Peut-être qu'on aura des infos bientôt. En tout cas, le jeu ne sera pas présent à l'E3. Donc, est-ce que comme pour le premier, il y aura une annonce à la Gamescom et des premiers visuels à la Gamescom ? J'aimerais bien, en tout cas, que ça arrive le plus vite possible. Toujours est-il que Life is Strange, on ne sait pas si c'est Life is Strange ou un spin-off ou autre chose qui s'appellera Life is Strange, mais en tout cas, ça existe et moi, ça me fait énormément plaisir. Je sais pas pour vous, les mecs.
Oh bah bien sûr,
toi, tu l'avais fini aussi. Hein.
Oui, oui, ouais. C'est tout ce qui fait comme
t'as pleuré aussi, hein, évidemment.
Non, je n'ai pas pleuré.
Bah, arrête, t'as chialé comme une madeleine, je suis sûr que t'es fragile, toi.
C'est toi le fragile ici.
Trace n'a pas de larmes, il ne sait pas pleurer.
Exactement. C'est vrai, ouais. Il a que de la rage en lui, de toute façon.
Exactement, d'ailleurs, je vais te taper là.
C'est vrai, bah, tu veux pas qu'on fasse après que le podcast ait été bouclé ?
Non. Si, peut-être c'est mieux.
Moi, ouais, c'est peut-être mieux, c'est mieux. Bon, on va peut-être le boucler maintenant alors parce que c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est la vie.
Ainsi va l'actu de la semaine sur Gameblog. On va en terminer maintenant. Merci Julo, merci Trash, merci Romain, merci Poufi à la Sono, merci à vous. Une fois de plus,
cher public,
de nous avoir été fidèles, de nous avoir écouté et entendu avec ce nouveau podcast
aussi.
Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires sous la news de ce podcast pour vous exprimer et faire part de tout ce que vous avez entendu, de vos remarques concernant tout ce que vous avez entendu et vu durant ce podcast. On se retrouve évidemment la semaine prochaine un tout autre podcast. D'ici là, la formule consacrée.
Allez vous faire
jouer. Mais non, mais les gars, vous suivez plus.
Jouez bien et surtout.
Non, oh bah là.
Bonne chance et jouez bien.
Ouais, oh là, n'importe quoi.
Good night and good luck.
Alors attendez, on peut faire chacun un mot. Non, on peut pas faire chacun. Portez-vous bien. Oh bon, bref.
Bon, allez.
Portez-vous bien et surtout.
Jouez bien.
À bientôt. Jouez bien. Ciao.
Ciao.